BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, bienvenue à toutes et à tous comme tous les soirs dans Good evening business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume.
Dans l'actualité ce soir, alors on commence à y voir un petit peu plus clair.
Un petit peu plus clair,
oui, concernant les hausses d'impôts que vont supporter les ménages et les grandes entreprises. Les ménages, c'est plus clair. Les grandes entreprises, on a passé beaucoup de coups de fil aujourd'hui, on va le dire comme ça. Ouais. Mais c'est pas encore clair, mais on vous racontera.
C'est pas encore définitif, je crois.
Non.
Oui,
non. Voilà, mais on racontera tout ça tout à l'heure à 18h30. Votre invité dans 10 minutes, Edwige.
Elle vient de. Ça y est, elle a réussi son OPA sur Kinder Aid. Ouais. 90,66%, j'ai tout juste le droit de le dire, à 5 secondes près. C'est la patronne de la FDJ, la Française des Jeux, Stéphane Pallez, qui sera notre invité. Stéphane Pallez, donc elle est contente pour ça, mais en même temps, aujourd'hui, ça a été un peu chahuté en bourse, le cours de la FDJ, et pour cause, elle aussi est dans le viseur de Bercy.
L'action perd 6%, peut-être passer à la caisse aussi pour les comptes de la Sécurité sociale, on verra ça. On débriefera ça à 18h30, on parlera aussi de l'opération de com' de Carlos Tavares, qui est allé à Sochaux aujourd'hui pour déminer un petit peu le terrain après le profit warning, on y était, on vous racontera, et puis Bouygues Télécom qui revoit aussi ses ambitions à la baisse pour cette année. Voilà le programme, non exhaustif, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc on savait, mais ça se confirme, il n'y aura pas de grande purge fiscale pour les particuliers l'an prochain. En fin de compte, seulement 0,3% des contribuables les plus riches paieront davantage d'impôts sur le revenu l'an prochain. Écoutez Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, qui l'a confirmé ce matin.
Aujourd'hui, nous considérons que quelques ménages, on parle de 0,3%, Julien Arnault. Donc, ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés des plus fortunés.
C'est quoi ? C'est les revenus ?
Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an.
Ouais.
500 000 euros par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer exceptionnellement, temporairement, à cet effort des redressements.
Un an seulement ?
Parce que nous verrons ça dans le débat, mais il faut que ce soit temporaire. De la même façon que pour les très grandes entreprises, il faut que ce soit temporaire. Attention, il n'y aura pas d'augmentation généralisée de l'impôt sur le revenu.
Voilà, Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, ce matin. Ce sont donc quelques 65 000 contribuables qui vont être concernés l'an prochain, ceux qui gagnent au moins 500 000 euros sans enfants. Et puis, je vous le disais, le brouillard commence à se dissiper un petit peu concernant les hausses d'impôts que vont subir les grandes entreprises l'an prochain, d'après nos informations. On se dirige donc, entre autres, vers une surtaxe d'impôt sur les sociétés, plus 10% pour celles qui font plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus 20% au-dessus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on parlera, parce qu'il y a encore quelques détails qui nous échappent avec nos experts tout à l'heure à 18h30. Dans l'actualité également ce soir, c'était un rapport très attendu. Le rapport Bozio-Vasmer sur la désmicardisation du pays. Il est sorti aujourd'hui. Rapport qui suggère d'arrêter d'alléger toujours le coût du travail au niveau du SMIC pour inciter les patrons à augmenter au niveau du SMIC, parce qu'ils ne le font pas aujourd'hui, parce qu'à ce niveau-là, quand ils le font, ils perdent trop d'allègements, précisément. Écoutez le co-auteur du rapport, Antoine Bozio.
On a des effets emploi qui sont globalement positifs. Il y aura moins d'emplois au niveau du SMIC, mais plus d'emplois au-delà de 1,2 SMIC, ce qui fait qu'en net, ça vous fait des effets qui sont globalement positif sur l'emploi, mais plutôt pour favoriser des emplois qui seront au-delà, on va dire, de 1,2 SMIC.
Voilà, Antoine Bozio, co-auteur de ce rapport qui est donc paru aujourd'hui. On en parlera ça aussi avec nos experts tout à l'heure, après 18h30 sur BFM Business. 18h03, en attendant, dans l'actualité ce soir, je vous le disais, opération déminage de Carlos Tavares. Le patron de Stellantis est allé sur le terrain, justement pour déminer le terrain, trois jours après l'annonce d'un profit warning sur 2024. Bonsoir Justine Vassung, vous êtes à Sochaux, c'est là qu'il a choisi de répondre aux très nombreuses critiques, Justine.
Oui, je suis à Sochaux, Montbéliard, devant l'usine historique de Peugeot, tout un symbole. C'est ici que Carlos Tavares a pris la parole, sa première prise de parole publique depuis l'avertissement sur résultat de Stellantis. Stellantis qui a presque divisé par deux, sa prévision de marge pour l'année 2024. Carlos Tavares n'a pas nié que son groupe était en difficulté. On l'écoute.
Évidemment que c'est difficile. Et malgré tout, il s'agit d'un profit warning. C'est-à-dire l'entreprise reste rentable, elle a son plan produit, elle a ses investissements. Et donc, elle n'est pas en difficulté au sens de sa survie immédiatement. Mais c'est un avertissement sérieux.
Et dans ce contexte, on parle beaucoup de la succession de Carlos Tavares alors que son mandat prend fin en 2026 et que des tensions semblent apparaître entre lui et son président, le président de Stellantis, John Elkann. On a demandé à Carlos Tavares quand est-ce qu'il comptait s'arrêter.
En 2026, la personne qui vous répond aura 68 ans. Vous prenez tous les échiquiers politiques. C'est un âge raisonnable pour prendre sa retraite.
Voilà Carlos Tavares qui compte aller vite pour redresser Stellantis et qui dit avoir déjà obtenu des résultats aux États-Unis, là où le groupe, vous le savez, est en grande difficulté. Eh bien, aux États-Unis, selon Carlos Tavares, le groupe a retrouvé, regagné des parts de marché au mois de septembre. Preuve, selon lui, que sa méthode fonctionne.
Voilà l'opération com de Carlos Tavares aujourd'hui à Sochaux. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Dans le secteur bancaire en France, les nouvelles ne sont pas bonnes au CCF. L'ex-HSBC France redevenu CCF. D'après les syndicats, la direction envisagerait des fermetures d'agences et des réductions d'effectifs assez conséquentes, jusqu'à un tiers des effectifs, disent les syndicats. Des arbitrages sont en cours, voilà ce qu'a déclaré, je cite, la direction, sans donner plus de détails. Et puis, on parlait de Stellantis, on a un autre groupe qui a revu à la baisse ses objectifs 2024 aujourd'hui, c'est Bouygues Télécom. Ça pénalise l'action Bouygues qui a perdu quasiment 5% à la Bourse de Paris. Raphaël Couder.
De son propre aveu, Bouygues Télécom fait face à un ralentissement de sa croissance en volume et relève que la concurrence s'est accrue depuis le deuxième trimestre de cette année. Résultat, l'excédent brut d'exploitation, l'un des principaux indicateurs de la rentabilité du secteur, sera certes en croissance en 2026, indique Bouygues, mais de façon plus modeste que ce que le groupe prévoyait jusqu'à présent. Cette revue à la baisse des ambitions inquiète les investisseurs car elle s'inscrit dans un contexte de faible croissance du marché, ce qui fait écho aux difficultés de SFR qui a perdu près d'un demi-million d'abonnés au premier trimestre. Dans le même temps, Free tire lui davantage son épingle du jeu. L'opérateur multiplie les opérations de communication et profite du retour de la guerre des prix. À ce jeu-là, Bouygues Télécom prépare justement sa riposte et lance la semaine prochaine une nouvelle marque baptisée Big qui promet de faire des économies au sein d'une famille si plusieurs abonnements sont souscrits.
Voilà le profit warning annoncé aujourd'hui par Bouygues Télécom. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. 18h06, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir Guillaume.
Très mauvaise journée à la Bourse de Paris.
Très mauvaise, oui.
Quand même.
1,32% de baisse, on est d'accord. On limite un petit peu la casse, parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu plus loin à la baisse. On termine à 7477 et avec une très nette sous-performance par rapport à l'Europe boursière. Regardez, moins 0,8% pour l'Eurostock 50. On a même la Bourse de Madrid qui termine sur une légère hausse, plus 0,07%. Donc il y a vraiment un monde entre nous et le reste. Mais accumulé de mauvaises nouvelles. Bouygues, effectivement, vous en parliez, moins 4,7% à 28,68€. Stellantis, moins 4% à 11,90€. Et puis, la FDJ qui termine en repli de 6,3% à 34,44€ avec la crainte donc d'éventuelles surtaxes d'État. Il y a quand même quelques titres qui résistent bien. Alors, Total Energy, plus 1,4% à 61,52€. Mais là, on n'a fait que suivre la course des cours du brut qui se sont très, très nettement tendus. On a même dépassé légèrement les $77 sur le Brent, on redescend à 76,83 en clôture. Enfin bon, la prime de risque géopolitique, elle reste là. Le CAC 40, donc moins 1,32, 7477 points.
On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Antoine, on est à la mi-séance évidemment sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd 0,3%, 42,049 points. L'indice Nasdaq de son côté qui grappisse 0,2%, Antoine, 17,960 pour le Nasdaq. Est-ce qu'il y a quelque chose en 30 secondes à signaler sur le marché américain?
Oui, à signaler une belle, belle performance d'Nvidia qui signe une hausse assez conséquente. On est sur du plus 3,5% avec Jensen Huang, le PDG d'Nvidia, qui parle d'une demande insane pour sa fameuse carte graphique Blackwell. Vous savez, c'est sa carte graphique nouvelle génération consacrée à l'intelligence artificielle. À JP Morgan qui sort une étude très favorable aussi. Donc Nvidia qui tire à lui seul le Nasdaq et les valeurs techno qui résistent un petit peu mieux que le reste du marché, effectivement.
Merci beaucoup Antoine. On en parlait à 18h08, la grande interview dans un instant. C'est donc la présidente directrice générale de la Française des Jeux, Stéphane Pallez, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. La grande interview arrive dans deux minutes sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Stéphane Pallez. Elle est la présidente de la Française des Jeux et on vient de savoir, d'apprendre à l'instant qu'elle avait réussi son OPA sur le suédois Kindred à hauteur de 90,66%. Bonsoir Stéphane Pallez.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être là, vous étiez venu, je crois que c'était mais en janvier, même si l'OPA n'a débuté qu'en février, nous annonçait que vous lanciez cette grande opération, enfin grande opération à l'aune de la Française des Jeux, surtout c'est quelque chose de très structurant. On verra aussi que votre titre aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a, vous avez chat qui rit, chat qui pleure, parce que il y a votre titre en bourse a été assez chahuté parce que paraît-il que Bercy ou du moins dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourrait vous taxer. Vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Mais d'abord revenons sur cette opération 90,66%. C'est bien. Est-ce que vous espériez mieux?
Non, mais c'est formidable, puisque en fait, on a effectivement, on a vu plus de 90% des titres venir à notre offre, qui était le seuil qu'on avait fixé. Et en plus, il se trouve qu'on avait par ailleurs acheté 1,66% directement. Donc, on est largement au-dessus du seuil qu'on avait fixé pour que cette OPA soit un succès. Et donc, ce soir, ce qu'on a annoncé, c'est qu'effectivement, cette OPA était un succès exactement au niveau où on l'avait anticipé, et c'est un niveau qu'il faut quand même aller chercher sur le marché, au prix qu'on avait proposé dès le départ, donc en février, donc 130 couronnes par action. Donc c'est un succès, ça nous permet de donc la clore ce soir, c'est-à-dire on va payer les presque 92% de titres qu'on a effectivement aujourd'hui entre nos mains, et on va laisser 15 jours à ceux qui avaient oublié d'apporter leur titre pour venir. Et de toute façon, derrière, on a ce qu'on appelle un squeeze out, c'est-à-dire que en fait on va délister l'entreprise, et les actionnaires qui n'auront pas apporté leur titre seront en quelque sorte forcés d'apporter leur titre à ce prix.
Même donc, en si fait, vous n'êtes qu'à 92, faite, même si vous n'êtes qu'à 92,
ça s'appelle un squeeze out. Oui. Donc en fait, c'est le seuil qu'on s'était fixé dès le départ. On a annoncé au-dessus de 90%. L'opération est réussie, on l'a fait. Il y a des listings et squeeze out derrière. Donc tout le monde a été parfaitement informé et cette opération se déroule exactement comme prévu et même plus vite que prévu, puisque au départ on avait fixé une durée maximum de 9 mois qui nous a mis au 19 novembre. Et nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse,
le 3 octobre.
Le 3 octobre.
Voilà, alors, pourquoi ne pas continuer
jusqu'à bonne date.
Pourquoi ne pas continuer jusqu'au 19 novembre en disant, peut-être qu'on aura.
Parce qu'on a le contrôle. Non, mais on a le contrôle. Oui, donc, on prend le contrôle des 92%, donc on les a dans nos mains, et après, on va aller effectivement, de toute façon, payer le reste des titres, soit qu'ils viennent dans la période de 15 jours qu'on leur donne pour venir, si je puis dire, volontairement, soit via le squeeze-out. Donc, de toute façon, cette opération, elle est faite. Voilà.
D'accord.
Et c'est un succès.
Et c'est un succès aux conditions... Oui, absolument. Vous n'avez pas de problème de financement, parce que quand on regarde l'évolution de votre cours de bourse, que j'ai devant moi... Alors, aujourd'hui, c'était un coup de tabac. Vous allez nous expliquer...
Qui n'a rien à voir avec ça.
Qui n'a rien à voir avec ça, bien sûr. Mais en même temps, est-ce que ça ne limite pas un peu baisse du cours de la FDJ,
pas du tout,
non,
du tout.
En termes de financement,
non, parce que ce qui est important
est bouclé.
L'opération, en fait, tout ça, ça a aussi été bien prévu dès le départ, puisqu'en fait, nous avons aujourd'hui un prêt-relais qui nous a été proposé par des grandes banques, donc d'un montant de plus de 2 milliards, et nous avons par ailleurs de la trésorerie, donc nous sommes en état de mobiliser notre prêt-relais, que nous allons ensuite refinancer par une opération obligataire que nous allons monter dans les prochaines semaines. Donc tout ça est parfaitement préparé. Et encore une fois, la baisse du cours de bourse, ça n'est jamais une bonne nouvelle, et on va y revenir, mais ça n'affecte absolument pas notre capacité à financer cette opération qui, depuis le début, a été vue par les marchés et les investisseurs comme une opération tout à fait positive avec une capacité de l'entreprise à la financer dans de très bonnes conditions, compte du fait que nous sommes très peu endettés aujourd'hui.
Alors,
et que nous générons beaucoup de cash.
On voilà. verra pourquoi vous avez été chahuté en bourse, et notamment parce que, je le disais, paraît-il, une volonté de Bercy de taxer les jeux d'argent. On verra ça. Restons quand même sur cette opération, parce que cette opération, elle est importante pour la Française des Jeux, parce qu'elle vous donne une dimension vraiment européenne. Vous allez devenir deuxième opérateur européen sur les jeux en ligne notamment. Et là, il y a deux facettes structurantes dans cette opération. On va rappeler Kindred, c'est surtout Unibet. Hein. C'est comme ça qu'on connaît.
Alors, c'est la marque la plus connue de Kindred. Kindred, effectivement, c'est le nom de l'entreprise, du groupe coté sur les marchés, mais qui n'est pas une marque grand public. La marque grand public la plus connue en matière de paris sportifs, c'est Unibet. C'est la marque de la filiale de Kindred en France, donc qui va être consolidée avec nos propres activités de paris sportifs en concurrence. Donc c'est une opération effectivement qui va créer en fait un nouveau groupe. Qui va être un groupe dans lequel nous aurons toujours la majorité de nos activités qui seront des activités de loterie exercées donc en monopole, en France pour l'essentiel, aussi en Irlande, puisque vous vous rappelez qu'on a donc racheté l'opérateur de loterie irlandais. Donc,
en deux mots, la FDJ, c'est quoi? Allez, les trois produits phares. Non, mais bon, on vous connaît. Bon, alors, on va parler forcément du patrimoine, même si c'est ça qui nous intéresse, la loterie du patrimoine. Mais... voilà.
Les produits phares
de la FDJ et ensuite
de la loterie. Les produits phares de la loterie, donc c'est nos grands jeux de tirage Euromillion loto, nos grands jeux de grattage, et il y en a énormément, notamment Cash qui est par exemple qui est un des jeux les plus connus, et au sein desquels effectivement on a aussi des jeux qui financent des causes d'intérêt général, qui sont pas les plus importants en termes de chiffre d'affaires, mais qui sont très importants
en termes d'image
et en termes de lien avec nos causes d'intérêt général, le territoire et l'ensemble de ce que nous redistribuons sur le territoire français. Donc tout ça va rester. Donc et à côté de ça, on est en train, avec Kindred, de consolider, mais en passant à une taille complètement différente, une activité de paris en ligne en concurrence que nous avions déjà en France avec Paris en sport en ligne et qu'on avait augmenté avec la création d'une activité de poker en ligne et l'achat de The Turf. Donc on avait déjà une base en France. Ouais, voilà. Et là, clairement, on passe à une taille totalement différente, puisque on va se retrouver avec en gros un tiers de nos activités du groupe, du nouveau groupe, qui seront sur ces activités de paris en ligne en concurrence et qui seront aussi donc très très importantes sur le plan européen, puisqu'on sera présent en dehors de France sur sur sept des plus grands marchés européens sur lesquels on a des positions très importantes. Donc on change complètement d'échelle et en termes d'activités de paris en ligne en concurrence et en termes aussi de présence sur l'ensemble des marchés européens. Et donc on vient effectivement...
Oui, parce que Kindred est présent aux Pays-Bas, Royaume-Uni,
Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Suède, Finlande, Belgique, Pologne, voilà. Donc c'est vraiment un opérateur qui d'un coup nous fait devenir un opérateur européen.
Cette opération, on voit bien qu'Kindred donc était encore un groupe suédois. Vous pourriez la répéter avec le même type d'opérateur, mais plutôt tourné vers le sud, en fait, pour devenir vraiment un grand groupe européen?
Mais
partie de vos stratégies.
Non, mais il y a pas de réponse de principe à cela. Notre stratégie, ça consiste à effectivement devenir un champion européen sur nos deux activités qui sont d'un côté la loterie
et
de l'autre côté paris en ligne en concurrence. Voilà. Donc il
donc
se trouve
vous pourrez faire des acquisitions.
Nous pouvons faire d'autres acquisitions, sachant que cette opération donc nous conduit, encore une fois, comme on l'a dit au début, à nous endetter d'une manière qui est tout à fait raisonnable.
C'est 2 milliards
Dans de bonnes conditions. On va emprunter de l'ordre de 2 milliards avec un rating investment grade dans nos plans, et donc qui va nous donner un bilan qui va être un peu plus leveragé qu'aujourd'hui, mais dans des conditions qui restent extrêmement prudentes et qui est vue favorablement par nos investisseurs.
Et l'émission obligataire dont vous parliez tout à l'heure, elle serait de ce montant-là, oui.
C'est 2 milliards.
Oui, d'accord. Okay.
2 milliards à peu près, c'est l'ordre de grandeur qu'on annoncera. Et donc, après, on va, grâce à notre capacité à générer de l'EBITDA et des cash flows, on va gentiment se désendetter, ce qui nous reconstituera une capacité de faire d'autres opérations.
Oui.
Mais là, c'est quand même une opération qui
bien sûr.
Il faut le temps de la digérer.
Oui, non, ça c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous couvrez une partie de l'Europe, donc logiquement, on se dit, vu l'extérieur, bah tiens, quand est-ce qu'elle va couvrir le reste de l'Europe?
Voilà. Il faut trouver okay. les bonnes cibles au bon prix. Donc, il n'y a pas de magie dans ce domaine.
Il y a juste la Commission européenne, vous êtes dans son œil, ou plutôt dans son champ de tir, dans sa ligne de tir depuis 2021, sur la question du monopole. Beaucoup s'inquiètent en disant vous avez déjà payé une soulte, que cette soulte, ça pourrait aller jusqu'à 1 milliard d'euros.
Non.
Comment est-ce que vous voyez les choses et quand est-ce qu'on aura enfin la décision définitive?
Alors, si ça ne tenait qu'à moi, on l'aurait déjà. Mais en fait, en réalité, c'est un dossier sur lequel la Commission européenne donc, a ouvert une enquête contre l'État français pour aide d'État, qui effectivement, je suis d'accord avec vous, a duré beaucoup de temps. Nous pensons que nous touchons quand même la fin de ce processus, puisque nous avons compris que la Commission sortante, qui est toujours en activité, voudrait régler ce dossier avant de laisser la main à la nouvelle commission.
Oui, donc c'est éminent.
Qui, comme vous le savez, va prendre ses fonctions plutôt novembre. Donc, dans le courant du mois d'octobre, nous espérons effectivement avoir de bonnes nouvelles sur ce sujet.
Pour l'instant, vous avez payé quoi
368
millions. Voilà. Vous espérez évidemment en rester là. Vous pensez qu'il y aura quand même un petit surplus?
Il y aura peut-être un petit surplus, mais comme nous l'avons dit, nous pensons que il devrait, comme nous avons bien travaillé sur les argumentaires juridiques et que nous pensons que nous avons bien démontré que la manière dont cela a été appréhendé par l'État français est juridiquement tout à fait conforme à ce que a été expliqué dans la privatisation. Après, il peut y avoir, j'allais dire, un ajustement de calcul, mais qui ne peut pas, à notre sens, dépasser effectivement une fourchette de l'ordre de 300 et quelques millions d'euros. Donc nous pensons que...
Comme on y est déjà, donc vous estimez que vous avez 300 millions en plus.
C'est parce qu'il y a une... Les chiffres qui ont été évoqués globalement au moment où ça a été fixé, en fait, allaient jusqu'à de l'ordre de 700.
Oui.
Et donc, nous pensons que s'il y a quelque chose en plus, ça ne peut que se situer dans cette fourchette globale-là. Et donc, nous sommes plutôt dans des centaines de millions d'euros, petites centaines de millions d'euros,
oui,
si ça existe.
Oui.
Voilà, que nous avons parfaitement pris en compte, et donc pas du tout dans le milliard.
D'accord,
voilà.
Ok, voilà, comme ça. En dessous de 700, on voit autour de 700.
Non, de 300, parce qu'on a déjà payé 368.
Oui, oui.
Et en fait, donc c'est entre 368 et 700, donc 300 millions, 368 maximum, en fait. On est dans, c'est ça l'ordre de grandeur du supplément possible. Donc on est dans cette fourchette-là, et
d'accord,
pas de 700, de 368.
Le monopole, au moins, la partie monopole, avec cette opération, elle n'est plus qu'à 70% à peu près, ça sera
oui,
ça,
c'est ça. Oui, oui.
Donc c'est un argument de plus pour dire que grosso modo, il y a moins de monopole, enfin 70%, ça reste quand même...
Non, ça n'a rien à voir.
Alors, maintenant... je le disais tout à l'heure, vous avez été très chahuté en bourse aujourd'hui, vous avez perdu 6%, enfin du moins votre titre, parce que il y a des informations de nos confrères Les Échos, comme quoi les jeux d'argent, et donc évidemment la FDJ, sont dans le viseur, tout le monde cherche à faire des économies, on a un budget 2025 qu'ils n'arrivent pas à bloquer parce que nous on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, peut-être que vous avez une explication, vous connaissez bien Bercy, et puis en plus... Dans le cadre du PLFSS qui est voté juste après, le projet de loi de la finance de sécurité sociale, il y aurait une taxation sur les jeux d'argent et sur vous à deux niveaux. CRDS, CSG. Bon, votre taxation, c'est très compliqué, on ne va pas forcément entendre
en
détail. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous?
Alors, moi, ce que je dis, déjà, c'est que la première chose, c'est que la FDJ, c'est un contributeur majeur en termes de fiscalité sur les jeux au budget de l'État. Donc, nous avons versé l'année dernière 4,3 milliards d'euros. Voilà. Donc nous sommes un contributeur très important. Donc c'est pas comme si on était sous-fiscalisé. La France est un pays d'ailleurs, tout le monde le sait, dans lequel le niveau de fiscalité sur les jeux d'argent est élevé.
Ouais, voilà.
Donc ça, je pars de là. Ça c'est la première chose. Ouais. Deuxièmement, moi j'ai été très simplement, puisqu'il s'agit effectivement, ce que vous évoquez concernerait potentiellement le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Donc moi j'ai été vérifiée à la source et aujourd'hui il n'y a pas de mesure de ce type dans le PLFSS, mais qui n'est pas encore évidemment adopté. Mais mes informations sont que ça n'a pas, il n'y a pas de base, il n'y a pas de décision du gouvernement de mettre ce type de taxation, qui par ailleurs, et là ça nous amènerait à rentrer dans les détails,
quand même un peu,
dans les détails, qui de toute façon est un système extraordinairement peu efficace pour le gouvernement lui-même pour ramener des recettes supplémentaires. Mais je ne veux pas me livrer à l'explication sur ce sujet. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça n'existe pas.
Il n'y a même pas une piste. On vous dit, ça n'existe pas.
Donc, qu'il y ait des gens qui, dans des bureaux, cherchent des recettes complémentaires, c'est possible.
Oui, non, mais vous, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez le ministre ou pas, je ne sais pas. Mais
voilà, ben moi,
j'ai
parlé.
Et il vous a dit non.
Moi, j'ai vérifié dans l'appareil d'État ce qu'il en était. Et aujourd'hui, ça n'est pas la position du gouvernement que de mettre ce type de mesure dans le PLFSS.
D'accord, ça c'est pour le PFSS. Mais, on vient d'en parler, la Française des Jeux, elle fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous allez bénéficier de cette surtaxe ou pas ?
Attendez, la Française des Jeux, elle fait aujourd'hui 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Et après, effectivement, il y a la question d'une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, qui ne porte pas sur le chiffre d'affaires, mais qui porte
sur les bénéfices.
Sur les bénéfices.
Bien sûr, mais c'est. Si, pardonnez-moi.
Oui.
C'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je citais ce chiffre-là.
Bien sûr. Oui. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas de détails sur ce sujet, pardon.
Oui, il y en a un petit peu partout, là, vous avez vu.
Mais je n'ai pas d'informations privilégiées sur ce sujet. Mais là, c'est
le ministre de l'Économie et des Finances qui a présenté ça ce matin. On n'a rien compris, mais
c'est une mesure générale qui porterait sur les grandes entreprises. Si nous faisons partie des grandes entreprises, nous serions assujettis à cette mesure. Mais là-dessus, je n'ai rien à dire de plus aujourd'hui.
Bah si, vous pourriez dire comme beaucoup en disant, mais attendez, on a déjà un taux de fiscalité dément en France.
Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. J'attends de voir ce qui est proposé. Je ne le souhaite pas. Après, je suis parfaitement informée du fait que le gouvernement cherche une contribution exceptionnelle des grandes entreprises pour améliorer la situation des finances publiques.
Ça, c'est clair. Je peux vous confirmer, et j'attends de voir.
Ouais. Voilà.
Stéphane Pallas, juste en conclusion, juste le fait d'imaginer cette taxation, notamment sur les jeux d'argent, en fait, l'idée derrière, ce serait de freiner, enfin, de mettre un peu un terme à cette folie des jeux d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez sur la cause, la raison?
Alors, je pense que tous ces argumentaires sont totalement n'ont aucun fondement, puisque de toute façon, enfin, ce que nous voyons autour de nous, c'est que le niveau de taxation n'a rien à voir avec les sujets d'addiction.
D'accord.
Voilà. Donc ça ne marche pas. Par ailleurs, la France reste un pays en matière de jeux qui est un pays régulé de manière stricte. Et je pense que c'est bien, dans lequel le jeu excessif reste limité. Donc je pense qu'on n'est pas du tout sur le bon sujet.
Cherchez ailleurs, vous l'avez compris. Merci, merci beaucoup merci Stéphane Pallas, qui a réussi à hauteur de 90,66% son OPA. Merci tout de suite. Guillaume Paul nous apporte toute l'info.
Il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, on commence donc à avoir un petit peu plus de détails sur les hausses d'impôts que vont subir les grandes entreprises. D'après nos informations, on se dirige donc entre autres vers une surtaxe d'impôts sur les sociétés, plus 10% pour celles qui font plus d'un milliard d'euros chiffre d'affaires, plus 20% au-dessus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais on manque encore de détails, on en reparlera en tout cas bien sûr. Dans un instant, côté particulier, c'est donc officiel, ce ne sont finalement que les 0,3% des contribuables les plus aisés qui paieront davantage d'impôts sur le revenu l'an prochain. Laurent Saint-Martin l'a dit ce matin, la mesure apportera entre 2 et 3 milliards d'euros supplémentaires. Et puis l'opération déminage chez Stellantis aujourd'hui, 3 jours après le profit warning annoncé par le groupe. Carlos Tavares s'est rendu sur le site de Sochaux, déplacement ouvert à la presse. Le trou d'air actuel ne remet pas en cause la stratégie de l'entreprise, a-t-il déclaré. La retraite en 2026 à la fin de son mandat est, dit-il, une option. Je cite toujours, 18h32, les experts, première partie dans un instant, jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Allez, 18h35, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts du soir. Edwige Chevrillon reste avec nous. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Et puis Manuel Le Chypre qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. On a fait des calculs d'apothicaire, faut qu'on vous raconte ça ce soir autour de ce qui menace les grandes entreprises parce qu'on commence à avoir quelques infos. On va vous raconter ça dans un instant. D'abord un mot de ce que nous disait Stéphane Pallez. Alors des vents contraires, des bonnes nouvelles. Elle réussit cette OPA sur le Suédois Kindred pour devenir champion européen des jeux d'argent et de hasard. Mauvaise nouvelle, cette menace qu'elle a un petit peu atténuée de taxation supplémentaire.
Elle a dit non.
À ce jour.
Oui, enfin, elle a quand même dit, j'ai été voir à la source. Donc, on va réexpliquer pour ceux qui nous rejoignent, qu'il y a une menace sur les jeux d'argent parce que Bercy voudrait taxer ces jeux d'argent en se disant il y a des excès, il faut diminuer les jeux d'argent, etc. En fait, simplement parce qu'il faut trouver des sous, de l'argent pour la sécurité sociale, parce qu'en l'occurrence, ça serait pour le PLFSS 2025, qui est présenté juste après le budget 2025. Et à ce moment-là, il y aurait des augmentations de CSG, CRDS, la fiscalité est très compliquée.
Loterie, casino, jeu de hasard, tout y passe.
Voilà, donc c'est très compliqué comme tuyauterie. Et elle dit non. Non, on m'a pas. J'ai été posé la question et on m'a dit, il n'en est pas pour l'instant question. Il n'en est pas question là. Je lui ai dit, mais peut-être des pistes. Elle me dit, pour l'instant, la personne qui gère, je ne sais pas si c'était le ministre ou qui, lui a dit non, lui a assuré que non. Voilà.
La rumeur est quand même assez tenace au point que l'action a dévissé de 6% aujourd'hui à la Bourse de Paris.
Oui, parce que c'est l'information de confrères Les Échos.
Malgré ces nouvelles,
démenti donc ce soir.
Enthousiasmant donc Kindred pour devenir leader européen des jeux d'argent. C'est-à-dire qu'on élargit la base des jeux, de l'offre finalement.
Ah oui, énormément. Ça change vraiment. C'est pour ça qu'on dit que c'est une opération structurante. OPA réussi à plus de 90%. C'est une très grosse opération. C'est Unibet, le jeu, la marque la plus connue. C'est structurant en quoi ? C'est un jeu qui est très, c'est un groupe qui est très européen, là où elle n'était pas la FDJ à part l'Irlande. Et puis c'est un jeu qui est très digital. Donc ça rééquilibre complètement en fait le profil. Il y aura 34% de mémoire du chiffre d'affaires de l'activité de la Française des Jeux qui sera sur le digital.
Oui. Voilà. Donc on accélère. Voilà. On disait l'auto à qui le tour, évidemment. Bon, apparemment encore Stéphane Pallez.
On va continuer à parler de l'auto, mais
Alors, il y a du loto, oui.
En même temps, il faut rappeler que c'est quand même l'impôt le plus génial qui a jamais été inventé.
C'est quoi les jeux, c'est
elle a
quoi
versé 4,3 milliards.
Ouais, la loterie, les gens payent, les gens sont volontaires pour jouer.
Les jeux dans leur ensemble, c'est un rendement de 5-6 milliards, effectivement.
Non, mais la Française des Jeux, là, j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà versé 4,3 milliards à l'État. Donc ça va, je pense que je suis une excellente contributrice. Bien que, elle va être concernée
par
la taxe parce qu'elle fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires, évidemment.
Bien sûr.
De la loterie en France.
Non.
Guillaume, c'est Casanova.
Ça alors.
Qui avait convaincu le roi de France, effectivement, de lancer une grande loterie. Voilà. Et qui est géniale, effectivement, puisque les gens la payent de bon cœur.
Tous les trésoriers de finances leur sont redevables.
Et à la fin, il faut rappeler toujours que. Alors, il y a bien 100% des gagnants qui ont tenté leur chance, mais celui qui gagne à 100%, c'est quand même
l'État. Qui décroche la timbale, c'est l'État. Bien, alors justement, oui, les entreprises, on commence. Alors, le brouillard commence à se dissiper, mais je peux vous dire que c'est compliqué. Un petit peu, information de plusieurs médias, dont BFM Business, qui nous disent quoi ? Les entreprises qui vont payer l'an prochain, ce sont bien les entreprises qui font au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour eux, surtaxe de 10% d'IS, pour celles qui font au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça sera 20% d'après nos informations. Total d'opérations, 8 milliards d'euros. Donc on retombe bien sur le chiffre, mais c'est sur les modalités qu'on se pose des questions, sachant que c'est sur une taxe qui
s'applique. Allez-y, Emmanuel, on n'a pas les mêmes informations.
On a les mêmes informations qui ne sont plus celles-là.
Oui, qui ne sont plus celles-là.
Alors, on va juste raconter les coulisses.
Est-ce que je peux dire que vous avez passé tous les deux des coups de fil tout l'après-midi?
Oui, pour essayer de comprendre.
En fait,
si vous payez 100, on peut y aller.
Non, mais juste pour raconter les coulisses, ce qui est quand même formidable, c'est que on a un panel, on a certains de nos journalistes qui étaient à Bercy ce matin pour un petit déjeuner avec le ministre de l'économie, dont sont sorties des informations, et on a contacté ensuite pour reboucler ces informations avec finalement tous les grands syndicats, notamment tous les grands syndicats qui représentent les entreprises, etc. Et en fait, à partir de ce chiffre mystérieux qui était 10% d'augmentation de l'IS à plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, 20% d'augmentation de l'IS, et donc on a passé tout l'après-midi à essayer de se demander, mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, l'IS qui est à 25%, on augmente ces 25% de 10%, ce qui fait que ça passe à 27,5%, etc. Ou bien est-ce que de 25, on passe à 35?
Donc, est-ce que c'est 10 points?
45, 10 points. Et alors là, ça a été très compliqué. Personne n'a su vraiment nous répondre. Alors, les infos concordantes qu'on a, parce que sans se concerter d'ailleurs avec Edwige, c'est qu'en fait, ce serait plus des taux de 10 et 20%. Ce serait 20,6 d'un côté et 40 de l'autre.
Parce qu'en fait, les 20,6, supposons, on va prendre un... Vous payez 100 d'impôts.
Oui.
Entre 1 milliard de chiffre d'affaires et 3 milliards de chiffre d'affaires, vous allez payer 126 d'impôts.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Entre 3 milliards et plus... Vous allez payer en fait 20,6% sur.
Alors c'est là qu'on n'est pas d'accord.
Sur ce que vous avez déjà payé entre 1 et 3. Donc on arrive à 141. Voilà.
Ça c'est pour vos informations.
Alors, on va pas rentrer dans les détails.
De toute façon, le résultat c'est qu'on va récupérer 8 milliards. Après on verra.
Le résultat c'est que c'est quand même un gros coup de matraquage fiscal.
La seule hypothèse qui colle avec les 8 milliards de recettes par rapport à ce qu'on sait de ce que représente l'impôt sur les sociétés parce qu'il faut rappeler que en gros, il y a à peu près 850 entreprises en France qui font plus de 1 milliard de chiffre d'affaires et il y en a à peu près 320 qui font plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et qu'en gros, si vous voulez, ces entreprises, elles payent 82 milliards d'impôts sur les sociétés chaque année. Bon. Donc, si vous voulez 8 milliards de plus, le calcul qui boucle avec ça, c'est non pas l'augmentation de 20 points du taux, c'est l'augmentation de 20% du taux et de 40%, ce qui fait qu'en gros, les taux passeraient de 25 à 30 pour les entreprises de plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de 25 à 35 pour
celles qui font plus de 3 milliards d'euros.
Plus de 3 milliards, avec la petite contribution sociale qui va bien de 3,3% avec. Donc là, on a une interprétation qui est différente, on verra ce que ça donne. Mais sachez que c'est pour... Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, un, c'est un vrai coup de matraquage fiscal sur les entreprises.
C'est ça qui est important à dire.
Et que deux, c'est quand même le grand bazar. Quoi.
Écoutez, on va demander l'avis d'un grand patron, voir si lui aussi il a un son de cloche. On est avec Frédéric Couarier qui est en vision avec nous, au téléphone, pardon. Bonsoir Monsieur Couarier, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes PDG du groupe Poujoula qui fabrique des cheminées. Vous êtes vice-président du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Est-ce que vous avez des choses à nous apporter concernant cette tuyauterie qui nous laisse un petit peu perplexe ce soir, Monsieur Couarier?
Alors, c'est pas parce que je fabrique des conduits que j'ai des bons tuyaux. Mais je suis un peu comme vous aujourd'hui. Enfin, on n'a pas plus d'informations à ce stade que vous. Je pense qu'il faut attendre que les éléments clairs soient donnés. Ceci étant, il faut quand même rappeler que l'IS en moyenne européenne, c'est plutôt plus près de 20 aujourd'hui en moyenne européenne. Donc déjà 25 n'est pas tout à fait aligné sur la moyenne européenne. Donc rajouter, passer à 30, voire 35 sur les catégories d'entreprises importantes, c'est nous éloigner considérablement de la moyenne européenne, alors qu'on n'y était déjà pas. Et moi, je ne suis pas concerné a priori. Ma entreprise fait 350 millions de chiffre d'affaires, mais ceci étant, je pense que c'est une décision importante qui est très impactante quand même, parce que toutes ces entreprises font bien certes des résultats, mais elles investissent beaucoup, elles créent de l'emploi. Ça risque de les freiner considérablement dans leur dynamique d'investissement et en tout cas d'emploi en France.
Edwige, une question.
Oui, moi j'avais une question. Vous n'avez vraiment aucune information pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé ou alors
pas plus que vous aujourd'hui.
On vous a pas téléphoné, vous avez pas eu. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Je trouve. J'imagine.
Je dirais qu'aujourd'hui, je pense que les arbitrages sont pas forcément tout à fait arrêtés. On n'a pas d'éléments plus précis que vous aujourd'hui. On a bien sûr vu par différents biais des différents chiffres, mais vous voyez même vous-même, vous avez pas tout à fait éléments. Donc, je pense que c'est pas encore à ce stade précis. Ce qu'on comprend, c'est que les entreprises de plus d'un milliard et de 3 milliards vont être mises à contribution. Alors, et c'est pas une bonne, à notre sens, c'est pas une bonne décision parce que c'est peut-être bon pour le court terme en termes de finances publiques, mais c'est très mauvais pour le moyen terme pour les finances publiques françaises.
J'imagine que si vous n'avez pas toutes les indications comme nous concernant la tuyauterie, vous n'avez pas d'indication sur le fait de savoir si ça sera un one shot seulement 2025 ou au-delà, parce qu'on commence à entendre effectivement.
En 2025, les taux seraient divisés par deux.
Oui, c'est ce qu'on entend.
Voilà. Vous savez, les contributions exceptionnelles, on connaît. Hein, ouais. Ça vient. Et puis si les choses ne vont pas comme prévu, ça reste. Et souvent, on s'y habitue. Hein. Donc, non, ce qu'il faut surtout, c'est tout ce qui, en fait, va concourir à dégrader le produit, l'activité en France, est mauvais pour les finances publiques de toute façon, parce que vous parliez de l'IS, le rendement de l'IS il y a 5 ans, c'était 27 milliards.
Oui.
On est passé à 67 milliards, alors qu'on est passé de 33 à 25.
Oui.
Donc on a fait le pari de l'activité. Les entreprises s'en sont saisies, elles ont investi, elles ont recruté, elles ont rentré des apprentis. En ce moment, les entreprises, elles sont confrontées à des difficultés parce que les marges baissent, parce que la conjoncture internationale est plus difficile, que la concurrence asiatique américaine est très féroce. Donc elles sont déjà sous pression. À rajouter de la pression supplémentaire, c'est les affaiblir, c'est surtout faire un mauvais pari sur l'avenir, parce que derrière, ça veut dire moins d'investissement, ça veut dire un emploi qui va être en berne. Et ça, c'est un mauvais choix.
Merci beaucoup, Frédéric Courrier. Merci d'avoir été avec nous ce soir, vice-président du METI, donc Mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à Bercy, quand même, pour que ces chiffres...
C'est pas de manière, les arbitrages ne sont pas du tout rendus, il est vrai, de ce point de vue-là. Mais reste que... on a le sentiment que c'est un peu le grand flou entre les différents, entre Matignon, entre Bercy, entre Laurent Saint-Martin, qui est entre les deux. Enfin, il est à Bercy, mais il est rattaché à Matignon.
Oui.
Et puis, sachant qu'en plus, il y a cette épée de Damoclès quand même du Parlement. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, entendu, du moins, les déclarations de Gérald Darmanin.
Qui dit qu'il ne votera pas le budget en l'État.
Qui a été clair, il a dit que c'est un budget inacceptable.
Bien. Donc,
ça promet le grand débat.
Alors, oui.
Sachant que pour boucler notre récit, ce que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est que bien évidemment, quand on demande à Bercy, ils ne sont pas non plus en mesure de nous apporter les réponses, ou à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il faut pas regarder le petit bout de la lorgnette, la tuyauterie, c'est important. Mais le message, c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, depuis 2017, Emmanuel Macron, avec sa politique qui consistait, effectivement, c'était pas compliqué sa stratégie, c'était de ramener la France à des niveaux de prélèvements obligatoires qui sont ceux de la moyenne européenne, et à corriger finalement ces excès français. Bon, et on voit bien que c'était quand même installé l'image dans le monde d'un pays qui devenait plus probinesse, etc. Et là, ce qui est en train de s'installer, à la fois du côté des grandes entreprises qui pourraient investir en France, à la fois des grandes entreprises françaises et à la fois des marchés financiers, c'est que finalement, ça n'était qu'une parenthèse et que la France n'a pas changé. Et ça, c'est quand même extrêmement dommageable en termes d'image et de croissance future.
Edwige.
Oui, juste pour prolonger, il y a eu un choc fiscal à l'envers avec Emmanuel Macron, effectivement. Un choc culturel, là, quand même, pour la France.
Oui.
C'est sûr que nous, on est un peu drogués à la peau. Mais du coup, l'image à l'étranger avait beaucoup changé. Et là, je voyais hier encore la patronne d'une filiale d'un grand groupe américain qui me disait, eh bien, maintenant, on est en sursis. C'est-à-dire que je sais que j'ai un doute sur une usine. Eh bien, il va falloir que je bataille sec pour expliquer pourquoi il faut maintenir cette usine-là, en l'occurrence, dans le sud-est de la France. Et là, on a déjà des suspensions d'investissement la France redevient un peu sur la liste rouge. Allez,
c'est ce que nous disait Bruno Grandjean, président.
On est passé du Choose France à Why France.
On verra déjà Choose France, on verra quand ressemblera Choose France en mai prochain. Enfin, mai, ça nous paraît tellement loin à l'échelle des événements. Écoutez, Laurent Saint-Martin, justement, qu'il a confirmé ce matin, vous n'aurez que 0,3% des contribuables les plus aisés qui vont payer plus d'impôts sur le revenu l'an prochain. Écoutez.
Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer, exceptionnellement, temporairement, à cet effort des redressements.
Un an seulement ?
Parce que nous verrons ça dans le débat, mais il faut que ce soit temporaire. De la même façon que pour les très grandes entreprises, il faut que ce soit temporaire. J'aurai quelques exigences pendant ce débat budgétaire. Le premier, c'est que cette politique de l'offre et de croissance ne soit pas cassée, ne soit pas abîmée, et que ces contributions restent donc exceptionnelles. Attention, il n'y aura pas d'augmentation généralisée de l'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, là-dessus, s'il faut le répéter, je le répète, non, il n'y aura pas de désindexation du barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire ce qui touche finalement tous les contribuables de l'impôt sur le revenu, on n'y touchera pas.
Voilà, 65 000 foyers fiscaux sur un peu plus de 40 millions. Il n'y en a que 20 millions qui payent l'impôt sur le revenu. Ça rapportera quand même 2 à 3 milliards d'euros, hein. Si vous voulez chercher 65 000 ménages qui vont rapporter avec un petit surplus d'hier.
C'est pas compliqué. Si vous divisez les 2 à 3 milliards par 65 000 ménages, ça fait quand même des dizaines de milliers d'euros par ménage. Donc, alors, après, c'est effectivement des revenus mensuels qui en net sont supérieurs à 20 000 euros pour une personne.
500 000 euros annuels. Oui,
ça fait 20 000 euros.
Par une personne.
Grosso modo, pour une personne, ça fait 20 000 euros par mois.
Oui.
Pour un couple, donc, ça fait deux fois 20 000 par mois.
Oui, vous y êtes.
C'est vrai que c'est quand même des très gros revenus. C'est pas le risque, ça aurait été que ça touche, si vous voulez, la classe moyenne supérieure, dès la tranche d'impôt
à
41%, ça commence. Et là, on tapait vraiment la classe moyenne supérieure, comme l'avait fait François Hollande d'ailleurs.
Oui. Moi je dirais juste, ma surprise peut-être quand même, c'est que je trouve que la taxation ou la surtaxe, elle est quand même très lourde. Je trouve que la main de Bercy ou de Michel Barnier, je ne sais pas, mais elle est vraiment très lourde. Même si c'est sur les super riches, on ne va pas forcément les plaindre. Et donc, c'est forcément c'est la dernière quinstile. Mais quand même, la dernière tranche, je trouve quand même que c'est très lourd comme taxe.
Là aussi, on n'a pas vraiment les modalités de l'opération, mais certains disent qu'on va être obligé d'instaurer ce qu'on appelle un impôt minimal. De la même façon, vous avez une flat tax à 30%, il faudra un impôt minimal pour peaufiner ce dispositif pour échapper à toutes les exonérations, toutes les niches fiscales qui imitent parfois le taux d'imposition des grandes fortunes qui, pour certaines d'entre elles, ont un taux d'imposition supérieur à celui des classes moyennes. Ouais. Donc là, on va être encore dans la tuyauterie, on va continuer encore à serpenter dans les prochains jours. L'impôt minimal.
Et puis, on connaisse les économies, les 40 milliards d'économies.
Non, ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on en sait beaucoup plus sur les hausses d'impôts que sur les baisses de dépenses. Et que,
ça vous étonne, Emmanuel ?
Ça ne m'étonne pas, mais encore une fois, ça fait partie de ces habitudes qu'on pérennise et qui font qu'on a l'impression de revivre. C'est pas un jour sans fin, comme le film, mais c'est un budget sans fin, parce qu'à chaque budget, on a les mêmes discussions, les mêmes avertissements, et puis à la fin, les mêmes problèmes qui se perpétuent.
Bon, et ben voilà. Le jour passe et d'un seul coup, le brouillard se dissipe.
Et la semaine prochaine risque d'être quand même aussi assez chahutée. Parce que donc, le budget présenté au Conseil des ministres le 9 et puis à l'Assemblée nationale le 10.
Oui, ça va arriver très très vite, effectivement, désormais.
Et réussir, pour bien quand même donner un ordre de grandeur, réussir à ramener le déficit public de un peu plus de 6% à 5 points l'année prochaine, ce qui nécessite d'aller chercher 60 milliards, pour remettre dans l'histoire, jamais ça n'a été fait depuis qu'on fait de la rigueur en France. C'est-à-dire que si vous prenez Raymond Barre, il a fait à peu près un point, mais à l'époque, Raymond Barre, il pouvait compter sur des comptes sociaux excédentaires. Alain Juppé l'a fait aussi en 95, mais rappelez-vous, il avait pu compter sur la fameuse soult, si vous voulez, de France Télécom. Et puis, il y a quand même eu le coup de massue fiscal, presque Fillon-Hollande.
Oui, Fillon-Hollande, on peut dire. Du quinquennat Sarkozy,
Qui a frappé très très fort, ras-le-bol fiscal, et le nombre d'exilés fiscaux qui a doublé, rappelons-le, dans les 5 années qui ont suivi par rapport aux 5 années précédentes.
Allez,
donc on sait ce que ça coûte en termes d'hémorragie de force vive.
On espère pouvoir vous en dire un petit peu plus sur la tuyauterie dans les prochaines heures. 18h52, vue sur le web, comme tous les soirs, un coup d'éclairage sur un article de bfmbusiness.com. C'est Anne-Catel Mousset qui est avec nous. Bonsoir Anne-Catel.
Bonsoir.
Rédactrice en chef. Avec cette info qu'on a eue, alors tard hier soir, il y avait des rumeurs, LVMH qui va donc devenir dès l'an prochain, et pour 10 ans, partenaire mondial de la Formule 1. Ça veut dire quoi concrètement, Anne-Catel?
Ça veut dire déjà que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire le retour du champagne sur les podiums. Parce que là, actuellement,
il y a toujours eu. Voilà.
Non, c'est du pétillant italien en ce moment.
Le Prosecco.
Le Prosecco
déjà, voilà. Ah déjà, bon. Première bonne nouvelle. Ensuite, est-ce que LVMH a mis près de 100 millions d'euros pour ça? Non, ils vont y aller avec trois marques. Ils vont y aller avec Louis Vuitton, qu'on a vu beaucoup pendant les JO, et donc ça leur a plu, visiblement. Donc ils veulent remettre Louis Vuitton sur des podiums et sur des événements sportifs. On y va aussi, du coup, avec Mouette et Chandon, qui sera, du coup, le champagne attitré de la Formule 1 à partir de l'année prochaine. Et on y va aussi avec Tag Heuer, qui est la marque horlogère de LVMH, qui va shipper la place à Rolex, qui est le chronométreur officiel pour le moment. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas tous les détails du partenariat. Ils évoquent aussi des produits en édition limitée, une présence dans les zones d'hospitalité, et ils doivent nous en dire plus début de l'année 2025.
Voilà. Donc, partenaire mondial à partir de l'an prochain pour 10 ans. Question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui intéresse fondamentalement LVMH dans le fait d'aller en Formule 1?
Alors, visiblement, ce n'est pas la passion de Bernard Arnault pour la Formule 1, parce que son fils dit qu'il n'a encore jamais vu un Grand Prix. Il doit y aller là, à Monaco, au prochain Grand Prix. Non, ce qui les intéresse, c'est le public de la Formule 1. C'est le public que LVMH veut séduire en ce moment. Pourquoi? Parce que là, la Formule 1, ça a été un peu désuet pendant quelques années. Voilà, on va caricaturer, mais le spectateur moyen, il était européen, assez âgé, c'était un homme, et il roupillait devant la Formule 1 le dimanche après-midi. Donc, ça a beaucoup changé. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, on a un groupe américain qui s'appelle Liberty Media, qui rachète les droits, et eux, ils ont trois buts, ils veulent élargir au monde, à d'autres pays que l'Europe, que ceux européens, ils veulent rajeunir, ils veulent féminiser. Et ça a très bien fonctionné. Donc on a Drive to Survive, qui est cette série Netflix, qui nous montre les coulisses de la Formule 1 un peu façon télé-réalité, qui a attiré ce public jeune et qui a attiré un public américain notamment, parce que là, les Américains ont longtemps, très très longtemps boudé la Formule 1. Là, ça cartonne. On a du coup trois Grands Prix cette année qui ont lieu aux États-Unis. Le dernier Grand Prix de Miami en mai, c'est 3,1 millions de téléspectateurs américains devant leur télé, c'est un record. Donc ce public jeune, il intéresse LVMH, il est américain, voilà. C'est aussi un gros marché pour eux. Ils sont déjà historiquement allés dans la Formule 1, ils en sont ressortis justement quand ce public a été un peu vieillissant et ça les intéressait moins. Là, ils reviennent, ils sont déjà revenus via les pilotes. On a Pierre Gasly souvent dans les shows Louis Vuitton, on a Lewis Hamilton, multiple champion du monde qui vient de sortir une collection pour
Dior. C'est ça qui est aussi qui compte beaucoup, hein, c'est qu'il y a des champions, des jeunes champions qui sont formidables. C'est le retour des grands champions.
Exactement. Et donc là, ils y vont parce que c'est ce que dit Frédéric Arnault, donc le PDG Tagger dans le Wall Street Journal. Ils y vont parce que c'est rassurant, parce qu'ils ont un public jeune et voilà, ça les a convaincus. Il y a 10 ans, c'était un public vieillissant et c'est plus le cas.
Le retour du champagne. Moi, je savais pas qu'il y avait plus de champagne.
C'est du vin pétillant italien.
Mais pourtant, c'est assez étonnant parce qu'avec aujourd'hui, surtout c'est Frédéric Arnault, il y a quand même une image de RSE, la transition écologique, c'est important. Or, la Formule 1, c'est il y a tout l'aspect polluant, même s'ils font des efforts pour trouver des nouveaux carburants, etc.
Ils vont bientôt passer à l'électrique.
Mais ils sont les moteurs hybrides. Hein,
ils sont hybrides.
Ils travaillent beaucoup et ils ont.
Ils vont petit à petit.
Ils prédisaient la fin de la Formule 1, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment le retour, comme vous disiez, Anne Cattel, retour de la Formule 1.
Et le plus jeune fils, Arnaud, est en stage chez McLaren en ce moment.
Et les audiences sont très très bonnes, même en France.
C'est ce que disait Anne Cattel, c'est-à-dire qu'ils ont révolutionné complètement. La diffusion de la Formule 1. C'est que maintenant, vous regardez un Grand Prix, vous avez l'impression d'être d'être dans un jeu vidéo, avec les réseaux sociaux.
Il y a des drones maintenant,
incroyable.
Des caméras embarquées.
C'est une expérience incroyable.
Allez, c'est à lire sur bfmbusiness.com, entre autres, et bien d'autres articles à lire sur bfmbusiness.com. Merci beaucoup, Anne Cattel. À très vite avec plaisir. Emmanuel, à très vite avec plaisir. Edwige, on se retrouve.
On retourne à nos calculettes.
Oui, retourne à nos calculettes.
La tuyauterie, etc. Demain, peut-être, on vous donnera l'envers du décor. Edwige, on se retrouve lundi.
Absolument. Lundi, on parlera, devinez de quoi, du budget.
L'avenir nous le dira, évidemment.
Des négociations commerciales, c'est reparti. C'est très, très tendu déjà.
Et ça commence en décembre en général, non c'est
Oui, ça, mais là, ça commence à connaître les conditions de vente.
Ah oui, d'accord. Oui. Donc ça ne s'arrête jamais, en fait.
Non, exactement.
Voilà. Allez, 18h57, on revient dans un instant. Le journal, évidemment, on va reparler de ces hausses d'impôts, plein d'autres choses. Et puis nos experts qui reviennent à 19h15, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good evening business.
Allez, un peu plus de 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Alors, vous avez un brouillard qui commence un petit peu à se dissiper, vous savez, sur les hausses d'impôts que vont supporter les entreprises les plus aisées et les ménages les plus aisés. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans un instant. Sinon, quoi de neuf aujourd'hui? Belle opération de com' de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, est allé à Sochaux aujourd'hui, trois jours après le profit warning annoncé pour le groupe. Et il a parlé aux journalistes de la situation actuelle. On vous racontera ça puisqu'on était bien évidemment. On raconte tout ça dans le journal dans un instant. Et puis on retrouve nos experts qui reviendront à 19h15. Avec eux, on parlera de tout ça. Et puis de cette nouvelle levée de fonds d'OpenAI est désormais valorisée à 157 milliards de dollars. S'il vous plaît, nos experts ce soir, les entrepreneurs Mathieu Stéphani, Leonidas Kalogiropoulos et le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona. Bonne soirée. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good evening business, le journal.
Donc c'est confirmé, il n'y aura pas de grande purge fiscale l'an prochain pour les particuliers. En fin de compte, seulement 0,3% des contribuables les plus riches paieront un peu plus d'impôts sur le revenu l'an prochain. Écoutez le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, ce matin.
Aujourd'hui, nous considérons que quelques ménages, on parle de 0,3%, Julien Arnault, Donc, ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés des plus fortunés.
C'est quoi ? C'est les revenus ? C'est les revenus ?
Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an.
Ouais.
500 000 euros par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer exceptionnellement, temporairement, à cet effort des redressements.
Un an seulement ?
Parce que nous verrons ça dans le débat, mais il faut que ce soit temporaire. De la même façon que pour les très grandes entreprises, il faut que ce soit temporaire. Attention, il n'y aura pas d'augmentation généralisée de l'impôt sur le revenu.
Voilà Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, ce matin. Puis le brouillard commence aussi à se lever un petit peu concernant les hausses d'impôts que vont subir les grandes entreprises l'an prochain. D'après nos informations, on se dirige donc, entre autres, vers une surtaxe d'impôt sur les sociétés, plus 10%. Pour celles qui font plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus 20% au-dessus de 3 milliards de chiffre d'affaires. On en reparlera tout ça avec nos experts dans un instant et jusqu'à 20h sur BFM Business. 19h04, en attendant, c'est un rapport qui était très attendu. Le rapport Bozio-Wassmer sur la désmicardisation du pays. Rapport qui suggère d'arrêter d'alléger sans arrêt le coût du travail au niveau du SMIC pour inciter justement les patrons à augmenter les salaires au niveau du SMIC. Écoutez le co-auteur du rapport, Antoine Bozio, aujourd'hui.
On a des effets emploi qui sont globalement positifs. Il y aura moins d'emplois au niveau du SMIC, mais plus d'emplois au-delà de 1,2 SMIC, ce qui fait qu'en net, ça vous fait des effets qui sont globalement positifs sur l'emploi, mais plutôt pour favoriser des emplois qui seront au-delà on va dire de 1,2 SMIC.
Le co-auteur du rapport, Antoine Bozio, on parlera bien sûr de cette désmicardisation avec nos experts tout à l'heure, évidemment. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, opération déminage de Carlos Tavares. Le patron de Stellantis est allé aujourd'hui sur le terrain pour déminer le terrain, justement, trois jours après le profit warning annoncé par le groupe. Bonsoir Justine Vassogne, vous êtes à Sochaux, c'est là qu'il a choisi de réagir aux très nombreuses critiques, Justine.
Oui, je suis à Sochaux, Montbéliard, devant l'usine historique de Peugeot, tout un symbole. C'est ici que Carlos Tavares a pris la parole, sa première prise de parole publique depuis l'avertissement sur résultat de Stellantis. Stellantis qui a presque divisé par deux sa prévision de marge pour l'année 2024. Carlos Tavares n'a pas nié que son groupe était en difficulté. On l'écoute.
Évidemment que c'est difficile. Et malgré tout, il s'agit d'un profit warning. C'est-à-dire l'entreprise reste rentable, elle a son plan produit, elle a ses investissements, et donc elle n'est pas en difficulté au sens de sa survie immédiatement. Mais c'est un avertissement sérieux.
Et dans ce contexte, on parle beaucoup de la succession de Carlos Tavares alors que son mandat prend fin en 2026 et que des tensions semblent apparaître entre lui et son président, le président de Stellantis, John Elkann. On a demandé à Carlos Tavares quand est-ce qu'il comptait s'arrêter.
En 2026, la personne qui vous répond aura 68 ans. Vous prenez tous les échiquiers politiques, c'est un âge raisonnable pour prendre sa retraite.
Voilà Carlos Tavares qui compte aller vite pour redresser Stellantis et qui dit avoir déjà obtenu des résultats aux États-Unis, là où le groupe, vous le savez, est en grande difficulté. Eh bien, aux États-Unis, selon Carlos Tavares, le groupe a retrouvé, regagné des parts de marché au mois de septembre. Preuve, selon lui, que sa méthode fonctionne.
Justine Vassogne, donc à Sochaux pour BFM Business. Dans le secteur bancaire, les nouvelles ne sont pas bonnes au CCF. L'ex-HSBC France, qui est redevenu CCF. D'après les syndicats, la direction envisagerait des fermetures d'agences et des réductions d'effectifs assez conséquentes, jusqu'à un tiers des effectifs, disent ce soir les syndicats. Des arbitrages sont en cours, a simplement répondu la direction. Et puis on parlait de Stellantis, on a un autre grand groupe qui a revu à la baisse ses objectifs 2024 pour aujourd'hui, c'est Bouygues Télécom. Ça a pénalisé l'action Bouygues, qui a perdu quasiment 5% ce soir à la Bourse de Paris. Raphaël Couder.
De son propre aveu, Bouygues Télécom fait face à un ralentissement de sa croissance en volume et relève que la concurrence s'est accrue depuis le deuxième trimestre de cette année. Résultat, l'excédent brut d'exploitation, l'un des principaux indicateurs de la rentabilité du secteur, sera certes en croissance en 2026, indique Bouygues, mais de façon plus modeste que ce que le groupe prévoyait jusqu'à présent. Cette revue à la baisse des ambitions inquiète les investisseurs car elle s'inscrit dans un contexte de faible croissance du marché, ce qui fait écho aux difficultés de SFR qui a perdu près d'un demi-million d'abonnés au premier trimestre. Dans le même temps, Free tire lui davantage son épingle du jeu. L'opérateur multiplie les opérations de communication et profite du retour de la guerre des prix. À ce jeu-là, Bouygues Télécom prépare justement sa riposte et lance la semaine prochaine une nouvelle marque baptisée Big qui promet de faire des économies au sein d'une famille si plusieurs abonnements sont souscrits.
Raphaël Goudert, et puis on voulait parler de cet acteur qui s'apprête lui aussi apparemment à venir concurrencer la SNCF. Il s'appelle Proxima, il vient de commander 12 trains à grande vitesse à Alstom et apparemment il a envie de se faire une petite place sur l'ouest de la France. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Proxima, c'est la compagnie privée fondée notamment par Rachel Picard, l'ancienne patronne des TGV et de la SNCF. La compagnie a jeté son dévolu sur l'axe atlantique avec l'intention de relier Nantes, Bordeaux, Rennes, Angers à Paris, soutenue par le fonds d'investissement Antin Infrastructure qui a apporté 1 milliard d'euros. Proxima a choisi des TGV Alstom, Avelia Horizon, les mêmes que les TGVM de la SNCF, des rames à deux étages, 320 km/h en pointe, un train qui permet de diminuer les coûts d'exploitation. Alstom promet en effet une consommation électrique réduite de 30%, des trains pouvant accueillir jusqu'à 740 passagers. La fabrication des rames sera répartie entre tous les sites industriels français d'Alstom. Les premières livraisons, indique le constructeur, sont attendues pour 2028, c'est-à-dire un an plus tard que les prévisions initiales de Proxima. Il faudra par ailleurs effectuer au préalable une série de tests sur le réseau. Conquérir le marché ferroviaire français reste toujours une mission délicate pour les nouveaux entrants. Beaucoup s'y sont déjà cassés les dents, principalement à cause du coût élevé des sillons, les droits de passage sur le réseau ferré qui sont parmi les plus élevés d'Europe.
Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir Guillaume.
Très mauvaise journée à la Bourse de Paris. Hein.
Très mauvaise, oui.
Quand même.
1,32% de baisse, on est d'accord. On limite un petit peu la casse, parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu plus loin à la baisse. Hein. On termine à 7477 et avec une très nette sous-performance par rapport à l'Europe boursière. Regardez, -0,8% pour l'Eurostock 50. On a même la Bourse de Madrid qui termine sur une légère hausse, +0,07%. Donc il y a vraiment un monde entre nous et le reste. Mais accumulation de mauvaises nouvelles. Bouygues, effectivement, vous en parliez, -4,7% à 28,68€. Stellantis, -4% à 11,90€. Et puis, la FDJ qui termine en repli de 6,3% à 34,44€ avec la crainte donc d'éventuelles surtaxes d'État. Il y a quand même quelques titres qui résistent bien. Alors, Total Energy, +1,4% à 61,52€. Mais là, on n'a fait que suivre la course des cours du brut qui se sont très, très nettement tendus. On a même dépassé légèrement les $77 sur le Brent, on redescend à 76,83 en clôture. Enfin bon, la prime de risque géopolitique, elle reste là. Le CAC 40, donc -1,32, 7477.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, c'est la mi-temps sur le marché américain. On glisse sur le Dow Jones qui perd 0,75% désormais, 41 877 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui perd 0,4%, 17 858. Tout ça à la mi-séance. 19h11, nos experts arrivent dans un instant. Brouillard qui se lève un petit peu, mais très doucement, sur les hausses d'impôts que vont encaisser les particuliers et les entreprises. On parlera de la désmicardisation. Il y a ce rapport Bozio-Vasmer très attendu qui est sorti aujourd'hui. Et puis, OpenAI est toujours plus haut, toujours plus fort. Une nouvelle levée de fonds et une boîte qui est désormais valorisée, tenez-vous bien, à 157 milliards de dollars. Voilà le résultat. Tout ça plus d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Ce week-end sur BFM Business. Se déplacer ne sera jamais plus comme avant. Toutes nos formes de mobilité ont entamé leur révolution. Préserver l'environnement, tirer le meilleur des nouvelles technologies pour se déplacer mieux. Pour tout comprendre de ces nouveaux enjeux, En route pour demain, votre rendez-vous à la pointe de l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, tous les samedis à 18h30 sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec Mobilience et ses 180 000 entreprises au service de la mobilité des Français.
Peugeot. Cette année, avec le Mondial de l'Auto Peugeot, bénéficiez de nos conditions salon à Paris et partout en France. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour profiter d'offres exceptionnelles avec jusqu'à 5000 euros d'avantages clients et 8 ans de garantie à l'Urquer offert. Alors en octobre, venez essayer notre large gamme électrique et hybride. Rendez-vous au Mondial de l'Auto Peugeot, près de chez vous.
Garantie à l'Urquer jusqu'à 8 ans ou 160 000 km avec 2 ans de garantie constructeur et jusqu'à 6 ans de garantie additionnelle activée à chaque entretien dans le réseau Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
LCL présente le prêt immo.
Alors, prix de l'immobilier en baisse ?
Check.
Taux d'emprunt en baisse ?
Check.
Toujours envie de changer d'appart ?
Méga check.
Ben chérie, c'est sûr, le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant.
Bah ouais.
Un projet immobilier ? LCL vous accompagne pas à pas. Et pour les investisseurs, c'est aussi le moment de profiter des derniers jours de la loi Pinel. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Mon fils entre en terminale et l'angoisse monte. Parcoursup, le grand oral, ses études supérieures, son futur métier, et on en parle tous les jours. Alors je lui ai dit, on va trouver des réponses ensemble au salon post-bac du Figaro étudiant, le week-end des 5 et 6 octobre à l'espace Jean Perret à Paris. Et on va clarifier tout ça.
Vous aussi, téléchargez votre invitation gratuite sur étudiant.lefigaro.fr.
Et si le confort DS s'invitait chez vous ?
DS Automobile présente
les essais à domicile DS. En octobre, offrez-vous le luxe d'un essai sur mesure. Un conseiller expert DS se déplace jusque chez vous avec le modèle de votre choix. Vous découvrirez à ses côtés le confort et le raffinement à la française, signé DS Automobile. Réservez votre essai à domicile sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Voir conditions sur dsautomobile.fr. Pensez à covoiturer.
Rendez-vous sur BFM Business. Eva Jacquot.
On se retrouve chaque semaine pour Focus Retail. Ensemble, nous décryptons l'actualité retail, les dernières innovations des marques et les nouvelles tendances de consommation. Un rendez-vous avec tous les grands acteurs de la distribution et tous les experts du secteur.
Focus Retail avec Eva Jacquot, samedi à 13h30 sur BFM Business.
Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming.
Focus Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication dédié au retail.
Votre rendez-vous avec Vusion Group, leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique.
Restez connecté à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablette et smartphone. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là, bien sûr, comme tous les soirs, nos experts du soir pour refaire l'actu en direct. Dominique Corona est avec nous. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général adjoint du syndicat UNSA, Léonidas Kalogeropoulos, bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs de la République. Et c'est sa première, on est ravis de l'accueillir. C'est Mathieu Stéphanie qui est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bienvenue.
Mon baptême.
C'est votre bonsoir. Baptême, en quelque sorte. Entrepreneur, fondateur du podcast Génération Do It Yourself. Alors, on a parlé évidemment, entre autres, de ce que vous avez fait avec Emmanuel Macron. Mais je dis ça aussi pour rappeler qu'il y en a des centaines, vous en avez fait,
ouais,
des centaines.
Oui, 400 voilà. Et quelques.
Voilà,
je disais
avant
de rentrer, je suis très, très fier. Un autre personnage iconique qui arrive ce week-end, je vais avoir Inox Tag.
Ça alors.
Et je suis tellement content. C'est un jeune et c'est des gens qui représentent tellement bien la France. Quand il y a des fractures de génération, en fait, ouais. Moi je vous le recommande. Je ne dirai pas ça toutes les semaines, évidemment, mais moi, il m'a. Je ne suis pas souvent inspiré par quelqu'un de 22 ans, mais je suis ressorti, mais. Je le trouve extraordinaire.
Je l'ai pas entendu, mais je trouve que de dire qu'il représente la France, je trouve ça extraordinaire. Ah, bah, parce qu'effectivement, je pense que nous avons besoin d'associer à notre pays des gens qui sont conquérants, volontaires, enthousiastes.
Souriants, ils rassemblent les gens. C'est extraordinaire.
Et comme quoi, l'âge ne fait pas le talent.
Absolument. Exactement.
Disponible quand, Mathieu,
souvent,
ce podcast ?
Dimanche
prochain, allez-y, évidemment. Bon.
Je ne l'avais pas annoncé encore.
Mais voilà, c'est chose faite. Alors, pardon de faire retomber un petit peu l'ambiance, on va parler de l'impôt sur le revenu, mais excusez-moi,
écoutez, c'est pareil, Laurent Saint-Martin, c'est l'Everest.
Qui nous a donc confirmé ce matin, vous n'avez en tout et pour tout que 0,3% des contribuables les plus aisés qui vont payer un peu plus d'hier l'an prochain. Écoutez, Laurent Saint-Martin.
Aujourd'hui, nous considérons que quelques ménages, on parle de 0,3%, Julien Arnaud. Donc, ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés des plus fortunés.
C'est quoi ? C'est les revenus ?
Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an.
Ouais.
500 000 euros par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer exceptionnellement, temporairement, à cet effort des redressements.
Un an seulement ?
Parce que nous verrons ça dans le débat, mais il faut que ce soit temporaire. De la même façon que pour les très grandes entreprises, il faut que ce soit temporaire. Attention ! il n'y aura pas d'augmentation généralisée de l'impôt sur le revenu.
Bon, alors à ceux qui disent « Ah là là, attention, mauvais signal adressé finalement aux investisseurs internationaux », est-ce que vous dites on a limité la casse finalement en allant taper que les 0,3% de contribuables les plus aisés ? Dominique ?
On se moque du monde.
D'accord.
On se moque du monde, mais je veux le dire, parce que voilà, on annonce le même jour qu'on va reporter de 6 mois l'augmentation des retraites, qui sont des gens qui ont effectivement des problématiques, des petites pensions, on fait ça pour tout le monde, et là on nous annonce pour les hauts revenus de 500 000 euros. J'ai fait le petit calcul, c'est 46 000 euros par mois pour un couple.
Pour un couple, hein.
46 000 euros par mois pour un couple. Alors que la tranche d'imposition sur le revenu à 45%, c'est 177 000 euros à l'année. Donc on voit bien qu'on se moque du monde. En fait, on dit qu'on va imposer les riches. En fait, c'est pas ça du tout. Les efforts vont être demandés sur l'ensemble des Français, sur les plus faibles, encore une fois de plus. Franchement, c'est vraiment très agaçant.
Mathieu, pour vous, comment est-ce que vous regardez cette initiative ? Est-ce que vous dites, ah finalement, bon, le signal n'est pas si mauvais que ça, voilà.
Moi, déjà, je trouve que c'est assez remarquable.
Parce que le citoyen dit, voilà.
De voir un gouvernement qui est affiché, enfin en tout cas par tout le monde, très à droite, qui va annoncer, imposer les plus riches. On a quand même un problème de discours quelque part, où il y a un truc qui ne fonctionne pas. Moi je me demande s'il ne serait pas temps, mais là on ne va pas être complètement aligné, mais s'il ne serait pas temps à un moment de dire, bon, enfin on a 6% de déficit, peut-être qu'on se retrousse un peu les manches tous ensemble, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire payer plus les plus riches. Mais à un moment, moi, je n'ai pas envie de me retrouver comme la Grèce. Je suis quand même traumatisé. J'étais jeune entrepreneur à ce moment-là, quand je voyais la Grèce qui était en défaut de paiement. En fait, on a mis tout le monde et puis sur le fait accompli, quoi. Donc, est-ce qu'on doit attendre le fait accompli pour dire à tout le monde « Ok, les gars, on y va, on se retrousse les manches et on y va tous ensemble » Ou est-ce qu'on dit « Non, on va juste prendre cela » Il y a un côté vraiment pas très assumé qui, moi, me convient pas trop.
Leonidas.
J'avoue, juste pour rebondir sur la remarque de Mathieu concernant la droite et les riches, c'est extraordinaire que à chaque fois que la droite gouverne, elle a toujours besoin de s'excuser sur sa gauche d'être de droite. Donc
c'est sous la gauche qu'on a le plus privatisé, pareil. Enfin voilà. Quoi.
Et oui, mais ça fait quand même une semaine qu'ils sont là. Et en une semaine, on s'excuse déjà d'être de droite en disant on va taxer les plus riches. Mais c'est juste pour reboucler une boucle qui est un peu historique sur la situation de déficit. Je trouve que c'est collectivement que l'on est dans cette situation. Et si on est collectivement dans cette situation, je trouverais ça assez normal s'il doit y avoir un effort, d'avoir un effort qui soit réparti auprès de tout le monde.
Dominique dit l'effort n'est pas porté par tout le monde.
Mais même on aurait un point de TVA supplémentaire, ça aurait une 10 milliards. Alors l'autre point, c'est que je trouve assez étonnant. Alors que ça soit temporaire, je crois que historiquement, on n'a jamais eu d'impôt temporaire. On n'a jamais eu d'impôt temporaire.
Oui,
c'est du temporaire qui dure.
Qu'il y a du temporaire qui dure et qu'on entend voilà, aujourd'hui, ça sera du temporaire qui durera.
Ça peut être du temporaire qui dure, mais c'est le terme légitime. Alors je ne sais pas si c'est légitime de taxer des gens en disant c'est légitime pour vous taxer. En tous les cas, que devant cette situation de déficit, on puisse dire on est collectivement devant une situation grave et collectivement on prend nos responsabilités. Et on a un point de vue. Enfin, moi, je ne trouverais pas ça choquant.
Bien sûr.
Ce qui m'impressionnerait beaucoup plus, c'est qu'on vienne documenter les 2/3 annoncés par le Premier ministre d'économie, qui sont le pendant au tiers de taxation. Moi, j'attends vraiment le fait que l'on donne l'information sur ces 2/3 d'économie.
Bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas ça pour
l'instant. On ne l'a pas, mais je n'ai pas dit
qu'il n'allait pas faire d'efforts. Non, mais pour rebondir sur ce que dit Léonie,
mais bien sûr que les efforts doivent être partagés. Mais je ne pense pas que d'annoncer qu'on gèle les pensions après une réforme des retraites qui a été injuste, où on nous a argué qu'on allait augmenter les petites pensions, qu'elle était faite aussi pour ça, de nous dire on va les décaler de 6 mois, et nous dire au même moment on va imposer que les plus riches, ce qu'on appelle les ultra-riches. S'il y a un vrai décalage qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans l'effort partagé. Et si en France, et je n'arrête pas de le dire plusieurs reprises ici, que si effectivement il n'y a pas d'équilibre dans les décisions, que ce soit fiscales, qu'elles soient effectivement dans les impôts, que ce soit dans les cotisations sociales ou dans les efforts demandés, on ne s'en sortira pas. Et aujourd'hui, si on commence comme ça, je rappelle que Nicolas Sarkozy a mis une taxe sur les plus riches, lui, il était bien au-delà, il était à 250 000 euros.
Oui, mais elle existe toujours.
Elle existe toujours. Mmh. Donc on voit bien quand même que là, c'est vraiment pour essayer d'endormir les gens, mais il faut faire attention, les gens ne s'endormiront pas.
Bon, le message ne passe pas, vous êtes d'accord Mathieu ?
Moi je trouve qu'il passe pas, et encore une fois, il n'est pas rassembleur. Et moi, c'est ce qui m'agace un peu. À un moment, il faut qu'on soit rassembleur, il ne faut pas qu'on stigmatise les riches, tel type de population, ni les pauvres, exactement. Et qu'à un moment aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans les entreprises, c'est pareil, on est dans un marché mondial, on n'a pas démondialisé tout ça. Donc on peut, quand on est très riche, aller en Belgique, aller au Luxembourg, aller au Portugal, oui. Il y en a plein qui l'ont fait.
Est-ce qu'on va toujours en Belgique comme on y allait avant, voilà.
Évidemment, il y a des choses qui sont moins intéressantes, mais enfin, et on va moins aussi en Irlande quand on est une entreprise internationale. Il y a des choses qui sont régulées, mais il y a quand même des moyens de partir. On peut aller dans d'autres pays, on peut aller à Dubaï, on peut aller à plein d'endroits. Et donc il y a un moment, faut pas oublier. Et quand on en a marre aussi,
les pauvres ne peuvent pas.
Mais donc quand on en a marre d'être fustigé, et voilà, sachant que après c'est pareil, il y a différents types de riches. Il y a les riches qu'on crée de l'emploi, il y a des riches qu'on crée des entreprises, il y a des riches qui travaillent comme des malades, puis il y a des riches chez qui l'argent tombe du ciel. Ah bah, et je pense que c'est pas exactement pareil.
Est-ce que vous sentez poindre un début de révolte ou de départ comme on l'a vu il y a une dizaine d'années ou pas, Mathieu? Est-ce que vous entendez ça autour de vous? Est-ce que vous identifiez ça ou pas?
On sent des questions qui se
posent.
Vous
sentez des questions quand même.
Mais moi, ce que je voudrais quand même aussi rappeler, une chose là-dessus, c'est que quand même quand on regarde, parce que moi, je fais des podcasts un peu sur le sujet, sur un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, on n'est pas moins taxés en France qu'ailleurs. Les Américains, ils sont très taxés aussi. Oui. Et il y a un moment où, en revanche, on n'a pas forcément, alors là, je vais rentrer dans un autre débat, mais une rigueur budgétaire sur pas mal de choses sur lesquelles
si on met tout le monde dans le même bateau,
il y a un moment où c'est plus facile de dire il faut serrer la ceinture.
Mais c'est là aussi que vous avez une vraie difficulté. Vous avez quand même un ministre de l'économie qui a fait par 49.3 un budget à l'Assemblée nationale qu'il a fait passer, qui, deux mois après, nous dit « Ah, je me suis trompé de 10 milliards », et après nous dit de 20 milliards, et aujourd'hui, c'est 6% de PIB. Oui. Attendez, ça pose une vraie problème de crédibilité. Est-ce qu'on prend les Français pour des idiots? Est-ce qu'on nous a menti? Ou est-ce qu'on est incompétent? Il faut poser la question. Parce que du coup, si vous me permettez, du coup, comment on fait pour rendre la parole crédible politique et budgétaire quand on nous ment en permanence?
C'est moi qui l'en coûte, mais pardonnez-moi.
Sauf que là, on est dans l'affolement. Vous devez, avant toute chose, rassurer les marchés financiers.
Absolument.
C'est ça la priorité.
Je voulais venir sur ce point. C'est qu'on est quand même également victime potentielle d'un effondrement de notre crédibilité. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le traumatisme grec, on n'a pas envie de le vivre en France. Et je pense que nous sommes probablement, nous devons être solidaires aussi d'un gouvernement qui, dans un laps de temps extrêmement court, est supposé arriver à trouver les rustines pour que l'hémorragie s'arrête, que la confiance revienne et que nous arrêtions d'avoir des taux d'intérêt qui sont en train d'arriver à des plafonds qui sont... on les paye tout de suite. On les paye sur les marchés financiers tous les jours. Donc, on est quand même engagé. C'est pas le problème de quelqu'un d'autre, la dette.
Mais la réforme des retraites, on nous a dit la même chose. Il faut rassurer les marchés.
Oui,
on avait passé la réforme des retraites.
Ce qui amène
le chaos à l'Assemblée nationale, parce que quand même, c'est ce qu'on paye aujourd'hui, la réforme des retraites, et on n'a pas fini à payer. On nous a fait le coup déjà des marchés à ce moment-là, les en soyez raisonnables.
Oui,
les
je
marchés.
Suis pas d'accord
et à cette époque-là,
je sais bien, mais vous en voulez encore, qui ne nous a pas donné les bonnes informations.
Je suis membre du corps,
a
donné les bonnes informations. Il suffit
de lire.
Par contre, est-ce que la politique a été équilibrée là aussi? Est-ce qu'on a revu les 75 milliards d'euros d'exonération aux entreprises? Bien sûr que non.
Non, mais
on ne va pas être d'accord du tout.
Il y a un point sur lequel j'aurais bien voulu que vous soyez en accord, en tous les cas, avec moi, sur le fait qu'on a créé 2 millions d'emplois, et on l'a créé 2 millions d'emplois parce que l'on a allégé la charge sur les entreprises. Et vous ne pouvez pas considérer, si vous voulez bien, que les exonérations sont des cadeaux lorsque ce sont les moyens que l'on donne aux entreprises pour s'alléger un peu du fardeau que aucune autre entreprise au monde n'est supposée supporter. Donc, le fait de dire que c'est des exonérations qui seraient des cadeaux, pardonnez-moi...
Mathieu, mettez-les d'accord.
Je reviens, je vais vous mettre d'accord en tout cas sur ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Moi, je pense que c'est le récit commun. Il faut qu'on rassemble les Français plus que jamais. Plus que jamais.
Sur les retraites, etc. Adorent ça.
Et en fait, dans la lignée de ce qui s'est fait dans les JO. Et en fait, le problème, c'est qu'avec une assemblée comme ça, on ne va pas y arriver parce qu'ils veulent tous se tirer dans les pattes. D'accord. Mais il y a un moment, il y aurait une responsabilité de tous ces hommes, femmes politiques qui devraient nous écouter là, de dire OK, on y va là. Parce que ce 6%, c'est un mur. Et il y a un moment, moi, je me dis, la Grèce, on y va tout droit.
Tout droit.
J'ai pas vraiment l'impression
qu'il y ait encore un gouvernement français qui fasse budget, mais vous pas êtes... le FMI.
Il faut revenir quand même sur les exonérations de cotisations sociales. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec les employeurs. Il faut regarder l'efficacité de la politique que nous menons. Oui, toute politique publique doit être effectivement analysée en fonction d'objectifs et effectivement de ce qu'on les atteint. Eh bien, il faut le faire pareil sur les exonérations de cotisations sociales.
Alors, parce qu'il est facile, Vasseur qui est sorti
justement,
aujourd'hui,
on va en parler. 75 il est facile allez-y. De dire voilà. qu'effectivement, toutes les entreprises, de façon égale, ont toutes les mêmes, doivent toutes être aidées de la même façon. Moi, je ne crois pas ça et je suis assez d'accord. Je pense que les entrepreneurs sont biberonnés aux aides. Pire que les chômeurs.
Vous faites référence à ce rapport rapport Bozio-Vasseur qui est donc sorti aujourd'hui.
Enfin, le biberonné aux aides, je ne peux pas l'entendre.
Remettre à plat le système d'exonération de cotisations patronales, 75 milliards d'euros, avec l'idée qu'il faut arrêter sans arrêt de baisser le coût du travail au dismo du SMIC, parce que c'est précisément ce qui empêche les patrons d'augmenter les salaires au niveau du SMIC. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, Mathieu Stéphanie, vous
J'ai pas lu le rapport, donc on en parlait juste avant.
Dans votre écosystème, on est au-dessus du SMIC quand même.
Voilà, on est au-dessus du SMIC. Voilà. Moi, ce que je dans l'absolu, je suis plutôt assez libéral, mais je me dis juste que un SMIC plus élevé dans plein de pays, ça n'a pas fait autant de mal que ça. Et je veux dire, souvent, tout se régule. On a un SMIC qui est quand même relativement bas par rapport à, je sais pas, nos voisins suisses ou beaucoup de voilà, on est dans mes limites sur l'économie en général, mais je vois pas d'un mauvais œil un SMIC monter, les prix monteraient. Je pars aux États-Unis là dans 15 jours pour aller tourner des podcasts, on voit que tout a monté là-bas en fait. Il y a de l'inflation. Le phénomène aujourd'hui qui se passe, c'est que on est devenu le tiers-monde pour les Américains, et donc peut-être qu'à un moment là, on a sur une augmentation du SMIC, on a peut-être une meilleure redistribution, je ne sais pas si...
Je suis, moi, très choqué par ce rapport. Vraiment, parce que je trouve on l'a posé une question et je trouve que la réponse est tellement à côté de la plaque que ça me fascine. je le rappelle, l'impôt le plus rentable pour l'État, c'est la TVA, c'est 185 milliards, et les charges qui pèsent sur le travail, c'est 450 milliards. Et tout ce qu'il trouve à dire... Je vous dis les choses comme je suis fasciné de passer comme ça à côté de son sujet. Au lieu de se dire 450 milliards rien que sur le travail pour notre protection sociale, c'est un fardeau qui pénalise le travail, qui pénalise les salaires et qui font que le salaire, et à propos du niveau de le salaire, déjà, même sur le SMIC, il reste 300 euros de charges qu'on pourrait supprimer, ça serait 300 euros de plus pour le SMIC. Globalement, on pourrait transférer le financement de notre sécurité sociale sur d'autres, et notamment sur la consommation.
Oui, et lui, on laisse l'État à la main pour qu'il décide à la place de la cotisation sociale qui nous appartient à tous.
Vous voulez bien m'expliquer selon quelles règles, selon quelles règles gravées dans le marbre, lorsqu'il y a une ressource autre que les charges qui pèsent sur le travail, c'est le résultat le plus mauvais. Pourquoi est-ce que
avez-vous lu la lettre de mission de M. Bozio-Vertrain?
Pourquoi est-ce que les partenaires
sociaux
ne seraient pas en mesure de traiter de la protection sociale, même si elle est rémunérée par d'autres ressources?
Parce que vous êtes bien placé pour savoir que l'impôt n'est pas fléché et que la cotisation l'est, que la CSG
non, pardonnez-moi, je suis extrêmement bien placé.
Et d'autre part, permettez-moi de vous dire, est-ce que vous avez lu la lettre de mission de M. Bozio?
Oui.
Parce que moi, j'ai été auditionné par M. Bozio.
Oui.
Elle était très claire, la lettre de mission de M. Bozio. C'était pas de trouver d'autres solutions, c'est de voir effectivement comment, dans une enveloppe contrainte, on pouvait mieux redistribuer pour désmicardiser la France. Il n'était pas question de faire autre chose. Alors, vous pouvez le regretter, mais vous ne pouvez pas demander à un rapport qu'il ne réponde pas à ce qui n'a pas été demandé.
Allez. Si.
Bah non.
Ah bah, on a compris que pour vous, il était à côté de la plaque. Allez.
Il s'agissait de désmicardiser la France, et en l'occurrence,
dans le cas des exonérations de cotisations sociales dans le budget. Et si vous avez bien lu, vous avez remarqué peut-être qu'il propose un scénario central avec des augmentations d'exonérations de cotisations sociales entre 1,6 et 1,9.
Allez, pour faire un terme aux trois ceux qui existent. C'est fini, 19h32 sur BFM Business.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h36, on se retrouve après cette pause qui a été haute en couleur à l'image de ce que vous avez vécu auparavant. Mathieu Stéphanie est toujours avec nous. Dominique encore, Corona est toujours avec nous. Leonidas Kalogeropoulos est toujours avec nous, à partir sur toute autre chose. OpenAI, toujours plus loin, toujours plus haut. Nouvelle levée de fonds annoncée il y a quelques heures, qui porte, selon les estimations, la valorisation désormais d'OpenAI, fondateur de ChatGPT, à 157 milliards de dollars. Chaque semaine, plus de 250 millions de personnes dans le monde utilisent ChatGPT pour améliorer leur travail, leur créativité, leur éducation, déclare l'entreprise dans un communiqué. Comment est-ce que vous regardez ce monstre qui grossit, Mathieu Stéphanie, finalement, vous, aujourd'hui?
Moi, je suis assez impressionné par OpenAI. Je pense que c'est une... Vous l'utilisez un peu?
Ouais,
version payante, gratuite. Non, je suis client de la première heure. Je l'utilise quand même beaucoup. Il y a eu des moments où j'utilisais un peu moins, et je vois que ça progresse de manière incroyable. Et je peux pas dire être radical et dire je trouve ça que génial. Oui, ça fait peur sous certains aspects. Après, moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on a eu peur pour le travail de l'homme quand on a inventé la charrue, quand on a inventé l'imprimerie, quand on a inventé la machine à vapeur, et qu'à la fin,
on a beaucoup plus de choses à faire.
Ouais, j'aime autant pas être dans les champs à labourer ou être scribe et écrire plutôt qu'imprimer. Et en fait, je me projette dans un monde. Alors, ça va quand même toucher beaucoup plus les cols bleus. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Les cols blancs. Et là-dessus, c'est quand même intéressant de se dire, moi, le monde actuel où il y a quand même beaucoup de cadres qui passent leur vie à faire des PowerPoint et des fichiers Excel, je le trouve pas passionnant. C'est pas mon truc où je me dis, waouh, ouais, génial, je vais faire des PowerPoint toute la journée. Je trouve pas ça fou.
Il y a même des associations contre les PowerPoint.
Ouais, mais voilà. Et donc, il y a un moment où je me dis, quand même, si on peut avoir plus de, je sais pas, sortir, se voir, prendre des décisions, ça m'enchante pas mal. Donc je pense qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles autour de l'évolution de l'IA. Évidemment, on se demande jusqu'où ça va aller. Est-ce que on va m'implanter une puce dans le cerveau? J'en ai parlé avec Raphaël Gaillard, qui est un type extraordinaire, un psychiatre, dans un de mes podcasts. On peut aller très très loin. Est-ce que l'intelligence artificielle générale va arriver très vite? Qu'est-ce que ça changera?
Est-ce qu'on va essayer?
Moi, je trouve
on va essayer qu'à... les cas d'usage,
J'ai un regret, je dois l'exprimer. C'est que les moteurs de recherche, c'est américain. Après, les réseaux sociaux,
c'est américain.
Les plateformes de réalité virtuelle, c'est très américain aussi. Là, il y avait un nouveau segment qui arrivait, comme quoi les positions sont pas toujours acquises et figées. Mais ça aurait tellement été formidable que ça soit européen. Et
les Chinois sont peut-être meilleurs que les Américains sur l'IA.
Mathieu.
Moi, je ne sais pas si on a racheté le coche. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains investissent massivement en France sur les profils. Donc, on n'a peut-être pas tout perdu. Ce qui me chagrine un peu, c'est que si on revient sur les discussions d'avant, on n'est peut-être plus dans un moment où l'État peut vraiment investir assez massivement en se disant on va faire all-in sur l'IA. Pourtant, je pense que là-dessus, il faudrait vraiment stimuler très fort, parce que, en revanche, la courbe, plus que dans tout ce que vous avez cité, Google, enfin tous les réseaux sociaux, etc., elle va être exponentielle. Et ça va partir d'un coup.
Oui.
Et si on loupe ça, on risque d'être des nains numériques. Exactement. On risque de vraiment se retrouver largués totalement dans tous les domaines.
Déjà à moins d'un pourcent.
On sera largués dans la santé, on sera largués dans l'intelligence, dans l'armée, on sera largués dans tout, en fait.
Alors, exponentielle avec les conséquences multiples, notamment le marché du travail, entre autres. Dominique Corona, comment est-ce que vous regardez ça?
C'est parti, effectivement, des sujets qu'il faut travailler dès à présent dans les entreprises, dans les branches professionnelles. Parce qu'il faut accompagner les transformations. Il ne faut pas attendre que la transformation arrive en disant « Oh !» On va mettre des gens à la porte parce qu'ils n'ont pas été formés.
Mais pour dire quoi? Pour préserver quoi?
Mais parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des évolutions des métiers. On le sait déjà. Il y a un rapport qui a été remis au président de la République qui dit qu'effectivement, ce sont des tâches qui vont être plus modifiées que des missions et des métiers en tant que tels. Donc, c'est comment on fait pour que ces salariés, avec la formation, on les accompagne sur des nouveaux métiers, des nouvelles tâches qui vont apparaître. Et moi, je suis assez d'accord avec vous. On est passé du chevaux-vapeur du cheval au cheval vapeur, eh ben on n'avait plus de palefreniers, on a eu des garagistes. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'évolution. Il faut simplement les anticiper.
Mais celle-là ne paraît pas plus brutale que les précédentes, que celles que vous avez citées, par exemple.
Et puis, après, il y a de la richesse en plus qui va être produite. Je crois que c'est Goldman Sachs qui a dit que l'intelligence artificielle, c'était 7% de PIB mondial en plus. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 7% de richesse complémentaire ? Est-ce qu'on le partage ou est-ce qu'on ne le partage pas ? Ou est-ce qu'on le garde pour certains et pas pour d'autres qui restent sur le bas-côté ? C'est tous ces sujets-là qui sont devant nous. Et il faut les prendre, je suis totalement d'accord aussi, avec du calme, raison et travaillons.
Mais c'est
travaillons
vrai qu'il y a
ces sujets ensemble.
Il faut inciter tout le monde à y aller. Les enfants, enfin tout le monde. Il faut vraiment. Moi, je pousse mes enfants à l'utiliser, Alors, il y en a plein d'autres. Il y a Claude. Il y a les Français de Mistral. Il y en a plein d'autres. Mais dans les collaborateurs, nous, on a été parmi les tout premiers à payer OpenAI parce que c'était le premier à tout le monde en version payante parce qu'il est nettement meilleur, et leur dire mais faites-le, faites du code, faites du contenu, faites tout ça. Et en fait aujourd'hui je pense qu'ils gagnent en productivité. Alors c'est toujours pareil, hein. Nous on veut qu'ils gagnent en productivité plutôt qu'ils bossent un jour de moins.
Mais j'ai vu un compte-rendu d'une réunion faite par l'IA, c'est absolument phénoménal, et je sais pas très bien quelle est la valeur ajoutée de quelqu'un qui fait un compte-rendu, et je dois dire qu'il y avait rien à dire sur le compte-rendu que j'ai vu de la réunion à laquelle j'avais assisté. Je dis bon, franchement c'est phénoménal, mais finalement c'est un exercice à assez faible valeur ajoutée. En revanche, quand vous posez une question et que c'est de l'IA générative, le moteur est intelligent parce qu'il est allé puiser des informations partout, et la question est effectivement de savoir cette information qui est allée puiser, est-ce qu'elle est rémunérée ou est-ce que la seule rémunération va à la machine qui était capable de devenir intelligente.
Notamment pour les producteurs de contenu.
Et notamment pour les producteurs de contenu, pour les médias. Et là, véritablement, pour les médias, déjà, il y avait eu une utilisation très abusive de Google des contenus. On a un peu rattraper très peu le sujet avec les droits voisins. S'il faut développer la même chose avec l'IA,
je voudrais ajouter voilà, on ne parle pas du futur, on parle vraiment du présent. C'est très important de prendre ça en considération. Vous prenez un métier comme le traducteur, enfin, nous on utilise, mais même dans le légal, pour faire des contenus, des contrats très simples, moi au quotidien, je demande à ChatGPT, je lui fais enregistrer mes coordonnées, etc., mes métiers, etc. Je lui demande de me sortir un contrat. Évidemment, c'est quelque chose de compliqué, je vais toujours voir un avocat, je vais toujours voir un traducteur, mais ça veut dire que la partie simple de leur business,
la base,
qu'ils faisaient au quotidien, elle a disparu, elle n'existe plus.
Et vous savez, dans l'IA aussi sur la santé, parce qu'on voit les problèmes d'accès aux soins que nous avons aujourd'hui en France, etc., va aussi révolutionner ces métiers-là. Il faut dès à présent commencer à y travailler dessus, parce que quand ça sera là et que ça sera en application partout, il peut y avoir des catastrophes. Et notre boulot, c'est effectivement d'anticiper ces changements pour effectivement accompagner les gens.
Allez.
Vraiment.
Il nous reste quelques minutes avant vos avis. On voulait parler d'éducation, parce qu'on parlait d'éducation. On a eu ce matin, vous savez, le classement 2024 des écoles de commerce du magazine L'Étudiant en termes de niveau d'excellence. Alors, il y a pas mal de critères autour de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, HEC Paris qui reste numéro 1. Vous avez l'EM Lyon qui grappille des places tous les ans. Ouais, qui est deuxième ex aequo avec l'ESSEC. Qui grappille des points en étant, nous dit-on, plus accessible financièrement. C'est 3000 euros de moins que les autres écoles de commerce pour y aller. Plus de boursiers en proportion, plus de nationalités différentes. Quel regard vous portez sur ces écoles de commerce 2024 ? Est-ce que c'est là qu'on fabrique vraiment les cerveaux de demain ?
Je trouve que c'est assez impressionnant que l'EM Lyon arrive à cette position, traduisant dans les statistiques ce que l'on pouvait voir dans l'univers professionnel. Le nombre de gens qui viennent de l'EM Lyon, qui en parlent, il y a un esprit de corps, un esprit d'ancien de l'EM Lyon. Je trouve que c'est une... Je ne l'ai jamais pratiqué à titre personnel, mais je trouve qu'elle a essaimé en termes de talent et en termes de dynamisme. On le voit venir depuis très longtemps.
Et voilà,
c'est pour moi pas du tout une surprise. Je trouve que c'est la traduction statistique d'une réalité de terrain.
Comment est-ce que vous regardez ces écoles de commerce en 2024 ?
Moi, je les trouve en grand progrès. Je trouve que c'est fou, la franchise HEC reste quand même toujours devant. Je suis surpris que l'EDEC soit plus dans le top 4 parce que c'est aussi une très belle école qui a fait un beau travail. Et en effet, l'EM Lyon qui a perdu un moment revient en force, et on le sent dans le monde du travail. Ce que moi je pense, et notamment par rapport aux universités, il y a ce mouvement, je reviens sur ce que je disais sur l'IA, mais ce mouvement d'apprendre à apprendre et d'essayer d'accompagner les étudiants à être autonome. En fait, un étudiant qui sort de l'EM Lyon ou d'HEC, peu importe, 4 ans après sa sortie d'école, il est périmé. S'il n'est pas rentré dans cette dynamique, il est périmé.
4 ans après.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que c'est la formation tout le monde de la vie.
Et en fait, moi, je vois, je vous parlais par exemple d'Inox Tag qui est venu sur mon podcast là, que je sors dimanche. Lui, il a arrêté au bac. Mais le type, c'est un des plus inspirants que j'ai reçu. Enfin, j'ai reçu des normaliens, j'ai reçu des gens incroyables. Mais lui, il se forme sur YouTube depuis qu'il a 12 ans.
Donc là, on est dans les YouTube, les soft skills, on appelle les soft skills.
Non, pas du tout. Pas du tout. Sur YouTube, il y a tout. Il y a des maths, il y a tout, en fait. Et sur l'IA.
Vous n'allez plus à l'OM Lyon, écoutez, regardez YouTube.
Non, mais ça, pour ça, il faut avoir une dynamique qui est d'apprendre à apprendre. Et pour moi, la priorité de ces écoles, des universités, etc., est d'évoluer dans ce nouveau paradigme.
De dire, on a les meilleurs
intervenants, parce que les meilleurs intervenants, en fait, ils sont à Princeton, ils sont partout et ils sont disponibles en ligne.
Dominique.
Oui, je voudrais quand même alerter sur la situation des universités en France.
Alors oui, c'était le pendant dont on voulait aussi
parce
parler.
Que aujourd'hui, 60 universités sont en déficit. Ça a doublé. On était à 30. On nous annonce des coupes budgétaires extrêmement fortes, notamment sur la vie étudiante, sur les universités. Il y a donc peut-être un phénomène, certains présidents d'université ont lancé un appel pour dire effectivement attention, parce que si on demande les droits effectivement là encore d'inscription, c'est les plus faibles une fois de plus qui vont avoir des difficultés. Et éduquer une population, c'est l'éclairer, c'est effectivement parler demain de nos futurs savants, nos futurs chercheurs. Et donc c'est extrêmement important. Donc il ne faut pas sacrifier l'éducation, il ne faut pas sacrifier l'université sur l'autel de la dette et de l'austérité.
Et vous avez vu que les universités crient d'alarme de plus en plus de présidents d'université qui craignent des coupes budgétaires l'an prochain, qui commencent à dire on va être obligé de fermer ce qu'on appelle des antennes relais de nos universités dans les villes moyennes.
Et donc, comment on
fait ? C'est 150 universités antennes qui font
venir
90 000 gamins.
Je
ne
veux pas être provocateur, mais quand on est à 500 000 euros par an, on peut aller ailleurs.
Oui, mais ceux-là, oui, mais Dominique.
Voilà, mais eux, on ne leur demande pas beaucoup, par contre.
Non, mais on est en train.
Mais ce que je veux dire sur les universités, c'est qu'il faut faire très attention. Et puis, c'est très infâmable, toujours. Moi, en 86, j'étais dans la rue. C'était la réforme
c'était
de
Vaquer. C'était donc vous,
j'y étais. Et oui, sélection à l'université aux frais d'inscription.
Oui.
Et ça, en France, ça passe pas.
Non, mais là, vous êtes en train de vous poser la question de savoir si l'enseignement public supérieur ne va pas être réservé aux grandes métropoles demain, effectivement.
C'est ça.
C'est un sujet, là, pour le coup, véritablement.
Moi, j'étais à Avignon, j'étais très content qu'il y avait une université de plein exercice à Avignon.
Moi, ça m'inquiète, ce que j'entends là. La question, c'est quelle est la solution ? Est-ce qu'ils dépensent trop ? Est-ce que.
Alors, c'est la question. Est-ce qu'il faut réduire les coûts de fonctionnement, la masse salariale dans les
J'ai pas l'impression qu'on vise de manière dans nos universités de manière totalement
luxueuse. Non, je pense que c'est encore là encore un manque d'anticipation avec on veut une 80% d'une classe d'âge qui est allée au bac. Est-ce que derrière on met les places adéquates? Est-ce qu'on met les locaux adéquats? Est-ce qu'on met le personnel adéquat? Et comme d'habitude, on manque dans ce pays de stratégie, de planification, et on réagit.
Vous savez, pardonnez-moi, je ne sais pas si on manque uniquement de stratégie, de planification de l'État. J'avoue que j'aime énormément l'initiative entrepreneuriale, tout simplement parce que je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à l'État de penser qu'il devrait tout faire, qu'il devrait tout bien faire, et que donc si les choses sont mal faites, c'est que ceux qui sont en haut n'ont pas les talents qu'ils devraient avoir, mais ça tourne en rond, et à part la complainte, je ne vois pas ce que ça amène. Ce que je regrette, c'est que sur une université comme Saclay, où il y a eu des propositions d'investissement de la part de Bernard Arnault, on lui a dit qu'on voulait pas de son argent, et il a dit bah, c'est comme ça, je vais ailleurs. Et je trouve que l'on n'a pas suffisamment ouvert nos universités à la dynamique entrepreneuriale qui est capable d'apporter l'argent qui manque. Si on continue de penser que seul l'État est la réponse à la totalité de nos besoins, je crains que nous nous condamnions nous-mêmes à des déficits permanents.
Mais il y a beaucoup
de que l'on arrête de nous réclamer à l'État d'être la bonne solution ou d'être la mauvaise solution à tout. Il faut regarder ailleurs, une nation ça existe.
Dominique,
et ça a beaucoup de vertu.
Il y a beaucoup quand même de partenariats privés publics dans les laboratoires de recherche dans l'université. Ça existe, ça se développe. Alors peut-être qu'il faut aller plus loin.
Probablement.
Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut faire très très attention aux coûts budgétaires dans les universités parce que c'est notre avenir. et on parlait d'avenir collectif, etc. Il faut qu'on soit vraiment extrêmement vigilant à ce qui s'y passe. Et moi, j'ai lu effectivement l'appel des présidents d'université. C'est très rare quand ils sortent de la réserve. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment inquiets.
Non, mais il y a déjà eu des coupes dans l'enseignement supérieur en début d'année.
Et donc là, ils se disent, est-ce qu'on va avoir encore 200 millions d'euros d'économies sur les universités et la vie étudiante?
Mathieu, pour conclure là-dessus.
Est-ce qu'on n'est pas élitiste aussi là-dessus un peu? Est-ce que, en fait, on survalorise pas un peu aussi l'université? Vous disiez qu'il y avait trop de monde peut-être, ou trop de bacheliers, mais est-ce qu'à un moment, en fait, avoir plus de plombiers, plus d'électriciens, plus de rendre ces métiers beaucoup plus sexy, c'est pas aussi une stratégie qu'il faudrait avoir, sachant qu'en plus il y en a tellement peu qu'ils gagnent quand même beaucoup d'argent aujourd'hui, et que dans les travaux on fait venir des étrangers.
Et d'ailleurs, c'est aussi l'industrie. Allez. Vous savez à quel point l'industrie aujourd'hui est une, j'allais presque dire, un produit d'appel qu'il faut valoriser. Et si on veut réindustrialiser notre pays, il faut que la formation s'adapte.
Allez, 18h52, l'extra time comme tous les soirs pour conclure cette émission. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, Léonidas, puisque vous être lancé, voulez-vous y
aller? C'est gentil, merci, volontiers. Je voulais faire effectivement un focus sur la réindustrialisation. Si on veut la réussir en donnant une dynamique suffisante alors que nos comptes sont exempts des comptes publics, il faut probablement donner un stimuli supplémentaire à nos banques, à la totalité de nos organismes financiers. Et il y a quelque chose qui a très bien marché, c'est le prêt garanti par l'État. Vous savez que les 107 milliards que l'on a mis sur la table pour sauver l'économie française durant le Covid sont très très bien remboursés. La garantie de l'État permet de ne pas dépenser de l'argent public, mais en revanche de permettre aux acteurs privés de mettre leur argent sur la table. Peut-être là un modèle à utiliser pour réindustrialiser la France.
Le coup de cœur ce soir de Léonidas. Dominique Coroda, 30 secondes.
Bah écoutez, 30 secondes, j'ai mis le petit ruban parce qu'effectivement c'est Octobre Rose, effectivement le cancer du sein, la lutte contre le cancer du sein. Vous savez que c'est à environ 60 000 nouveaux cas par an. Et j'ai voulu vous parler du crédit immobilier et de l'assurance. Voilà, aujourd'hui c'est la double peine parce que même si effectivement la loi a été changée et qu'il faut 5 ans, au bout de 5 ans on a le droit à l'oubli, on sait très bien qu'aujourd'hui encore, pour toutes les personnes qui sont malades, il y a des questionnaires de santé, qu'effectivement, elles ont du mal à pouvoir aujourd'hui encore avoir un crédit immobilier. Alors moi, ce que je dis, il faudrait une mutualisation globale, parce que quand on est malade, on ne l'a pas cherché, et donc c'est encore une injustice qu'on pourrait régler tous ensemble.
J'ai appris quelque chose grâce à vous, et je vous en sais gré.
Oui. J'espère pas qu'une seule chose.
De Dominique Corona. Mathieu Stéphanie, c'est à vous, Mathieu, pour conclure.
Je reviens sur quelque chose que j'ai dit, mais pour le reformuler, moi, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur en même temps. Mon coup de gueule, il est contre cette approche pathétique qu'on voit tous les jours dans l'arène politique en ce moment, qui moi me donne la nausée. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes qu'à un moment il serait temps qu'on se mette tous ensemble. C'est peut-être un peu fleur bleue, mais moi je vois ces jeunes. Il y a plein de gens qui ont craché sur Inox Tag, qui ont craché sur tout ce qu'il a fait. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses en France. Oui. Ça vient de la base des réseaux sociaux, de jeunes influenceurs. Et moi, j'ai beaucoup plus envie d'écouter ces jeunes personnes que tous les autres qui se battent comme des débiles.
Et voilà, ce soir, pour votre coup de cœur ou coup de gueule, selon Mathieu. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir. Mathieu Stéphanie, entrepreneur, fondateur du podcast Génération Do It Yourself, et donc dimanche, Inox Tag. Voilà, disponible. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Léonidas Kallogiropoulos, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs de la République. Merci, messieurs. À très vite, avec plaisir, 19h54. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour la République, bien sûr, toujours et encore. Je vous donne les grands titres rapidement. Donc, il y aura bien hausse d'IS l'an prochain pour les grandes entreprises, celles qui font au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec à la clé une enveloppe de 8 milliards pour l'État. Pour les particuliers, ça se confirme, donc ce ne sont finalement que les 0,3% de contribuables les plus aisés qui paieront davantage d'IR l'an prochain, rapportera cette mesure 2 à 3 milliards d'euros. Puis l'opération déminage de Carlos Tavares, qui est allé à Sochaux aujourd'hui pour rassurer, 3 jours après le profit warning du jour, le trou d'air actuel ne remet pas en cause la stratégie de l'entreprise. C'est ce qu'il a déclaré. 19h55, dans un instant, Tekkenco, François Sorel. Nous, on revient demain, bien sûr, 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.